Bonsoir. Good evening, everybody. Mon nom est Véronique Bélanger. Je suis doyenne adjointe à la faculté de droit ici, et c'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue ce soir pour cette dernière conférence de la série de 2014-2015. C'est de la série de conférences de formation continue une pensée d'avance Think Ahead que je co-organise avec mon collègue Frédéric Bachan qui est ici ce soir. As many of you know already, our focus this year is on law's relevance to key themes that are at the heart of the most important policy debates of our times. Tonight, we will talk about the criminal justice system. Three leading scholars will take stock of the main forces shaping the evolution of Canada's approach to criminal justice. So we will hear tonight from three speakers. Allow me first to introduce them to you. Notre premier conférencier est Hugues Parent, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Ses champs de recherche et d'enseignement sont le droit pénal et la pénologie. Il est l'auteur d'un traité de droit criminel en trois tomes, paru chez Témis entre 2008 et 2012. Il a travaillé récemment comme conseiller juridique pour la défense dans le premier procès de Guy Turcotte, accusé du meurtre de ses deux enfants. D'ailleurs, ce soir, le professeur Parent abordera les développements récents en matière de troubles mentaux en droit criminel. Our second speaker tonight will be Professor Marie Manikis. Professor Manikis joined the Faculty of Law of McGill University in 2013. Her teaching and research focus on criminal law, human rights, victims' rights, and sentencing. Her scholarship is interdisciplinary and uses social science methodologies, proportionality theory in sentencing, and gender perspectives to study criminal law and criminal justice. A graduate of l'Université de Montréal and Osgoode Hall, she completed a DPhil in law in 2004 at Oxford. Her thesis analyzed the enforcement and redress mechanisms available in England and Wales and in the US in response to breaches to victims' rights. Tonight, she will address powers and ethical duties of the prosecution in Canadian law, in particular as it relates to the presence of mandatory minimal sentences and Aboriginal defendants. Nous accueillerons enfin troisième conférencier, Maître Simon Roy, professeur agrégé à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et co-directeur du programme de deuxième cycle en pratique du droit criminel et pénal. Membre du Barreau du Québec depuis 1997, Maître Roy est un spécialiste du droit pénal. Il a rédigé sa thèse de doctorat en droit pénal à l'Université d'Ottawa sur l'ignorance de la loi en droit canadien. Maître Roy est co-directeur de la collection de droit pénal de Juris Classeur Québec et membre chercheur de la chaire de recherche CIBC et intégrité financière Axe Légal. Le professeur Roy a été invité à l'Institut de sciences criminelles et justice de l'Université de Bordeaux à titre de professeur de droit pénal canadien. Il est aussi régulièrement invité par les médias à commenter différents aspects de l'actualité en droit pénal. Ce soir, il parlera de la responsabilité des personnes morales pour les crimes économiques. And so before we begin with the formal part of our program, let me make a few housekeeping announcements. If you haven't done so already, please shut off anything that rings or buzzes. For those of you attending for the first time, please note that we are live streaming the lecture in two overflow rooms. During the Q&A periods, students will make microphones available to you in the moot court. We have to insist that you use the microphone so that the participants in the overflow rooms can hear your questions. There will be one break this evening, about midway through, a little bit after midway through, around 7:45. During the break, you will find washrooms in the basement. You can get some snacks from a table manned by law students in the atrium. Tonight, the proceeds will go towards Kilometers for a Cause, a fundraiser for the Aboriginal Law Students Association to support the Native Women's Shelter of Montreal. The shelter helps Indigenous women in precarious situations. Your donations will go toward providing food, shelter, and other necessities to the community. Please give generously. And in the next few days, and yes, before April 1st, you will receive an email with your attestation certificate. If you have not yet done so, please make sure that you check in at the table in the atrium so that we know that you are here and we can send you that attestation. Il me reste à vous inviter à vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à notre premier conférencier.
Merci donc pour m'avoir invité ce soir. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la défense de l'aliénation mentale, ainsi que des récentes modifications qui ont été apportées au verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Tout d'abord, la défense d'aliénation mentale, eh bien, au terme de l'article 16 du Code criminel, on dit « la responsabilité criminelle d'une personne n'est pas engagée à l'égard d'un acte ou d'une omission survenue alors qu'elle souffrait d'un trouble mental qui la rendait soit incapable de juger de la nature ou de la qualité de l'acte ou l'omission, ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais. » Donc, pour être exonératoire, l'aliénation mentale doit donc obéir aux deux conditions impératives que sont, un, la présence d'un trouble mental, et deux, l'existence d'une incapacité découlant de ce trouble mental, qu'il s'agisse d'une incapacité de juger de la nature ou de la qualité de l'acte ou l'omission, ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais. Donc, je vais tout d'abord regarder avec vous en quoi consistent ces différentes conditions. Premièrement, la présence d'un trouble mental. Lorsqu'on parle d'un trouble mental, automatiquement, on est porté à penser à la psychiatrie. Et pourtant, il existe une distinction extrêmement importante entre la définition des troubles mentaux en médecine et la définition des troubles mentaux en droit criminel. Cette distinction tient essentiellement à l'altérité, en fait, des objectifs poursuivis par les différentes disciplines. En médecine, on le sait, c'est quoi l'objectif de la psychiatrie? Ben, c'est pas très compliqué, c'est de diagnostiquer et de traiter les maladies mentales. Donc, pour atteindre ces objectifs-là, la médecine a développé son propre concept, qui est celui de la définition, qui est celui de la maladie mentale qu'on retrouve dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. En droit criminel, c'est complètement différent. Le but du droit criminel n'est pas de diagnostiquer ou de traiter les différentes maladies mentales. Le but du droit criminel, c'est de déterminer, en fait, les frontières de la responsabilité criminelle. Et pour atteindre cet objectif, le droit criminel a développé sa propre définition de la notion des troubles mentaux. Donc, au niveau de l'article 16, quand on parle d'un trouble mental, bien, c'est un concept qui est essentiellement juridique. C'est pas un concept médical, bien que l'opinion des psychiatres soit quand même importante sur la qualification, sur la nature des symptômes observés chez l'individu au moment du crime. Donc, ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'en droit criminel, il n'existe pas de définition précise et exhaustive de la notion de trouble mental. Malgré cette situation, on s'entend généralement pour dire qu'en droit criminel, la notion de trouble mental recouvre en fait toutes les maladies, tous les troubles ou tous les états anormaux qui affectent la raison humaine et son fonctionnement, à l'exclusion toutefois des états volontairement provoqués par l'alcool ou les stupéfiants, là, c'est un peu comme la question en fait qui a été débattue dans qui va être débattue dans l'affaire Turcotte, et de certains états mentaux transitoires comme par exemple la commotion cérébrale. Donc, si la présence d'un trouble mental est nécessaire afin d'actionner les mécanismes à la base de la défense d'aliénation mentale, encore faut-il que ce trouble mental ait entraîné chez l'individu au moment de la commission du crime, comme je le disais tantôt, une incapacité psychique. Alors, cette incapacité, je l'ai définie tantôt, c'est soit l'incapacité de juger de la nature, la qualité de l'acte ou l'omission, ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais. Je vais prendre quelques instants pour en fait vous donner la définition de ces deux critères d'incapacité, et après ça, on procédera à l'analyse des différentes formes d'anormalité psychique en droit criminel. Donc, premièrement, l'incapacité de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou de l'omission. D'après le juge McIntyre dans l'arrêt Kelshin, pour qu'un accusé soit capable de juger de la nature et de la qualité d'un acte ou d'une omission, l'accusé doit premièrement être capable de savoir ce qu'il fait. Donc, il doit être capable de savoir ce qu'il fait. Par exemple, de savoir qu'il frappait la victime avec une roche sur la tête et avec beaucoup de force. Donc, c'est une définition essentiellement physique. Et il doit en plus être en mesure d'évaluer et de comprendre les conséquences matérielles qui découlent de ce geste. Par exemple, de savoir qu'en frappant la victime à la tête avec une roche, qu'il allait lui causer des lésions corporelles assez graves. Donc, comme on peut le constater, il s'agit d'un critère d'incapacité qui est extrêmement sévère. Pour ne pas être en mesure de juger de la nature et de la qualité d'un acte, il faut être complètement psychotique. Bon, c'est l'exemple de l'individu qui coupe la tête d'une personne en pensant qu'il coupe une citrouille. Là, il ne sait pas ce qu'il fait. Ou l'exemple de l'individu qui coupe la tête, qui tranche la tête d'une personne en pensant que celle-ci va se pencher, ramasser sa tête, se la déposer sur les épaules et partir à marcher. Donc, on le voit, ça ne correspond plus à la définition moderne ou contemporaine des troubles mentaux en droit criminel. On voit ça très rarement en psychiatrie, ce genre de troubles mentaux, ce genre de symptômes-là. Donc, ce premier critère d'incapacité, si on peut dire, c'est un critère qu'on voit après pratiquement plus en droit criminel. D'où l'importance du second critère d'incapacité, qui est l'incapacité de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais. L'arrêt de principe en matière d'incapacité de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais est l'arrêt R contre Oman. En raison de son importance, je vais prendre quelques instants pour vous lire les faits de l'affaire, et par la suite, on va étudier cette cause-là ensemble. Alors, juste quelques instants, permettez-moi de lire quelques passages de l'arrêt Oman. On dit, tôt le matin du 24 mars 1991, Matthew Oman a tué Gina Lynn Beaton pendant qu'elle dormait sur un matelas dans son appartement, en tirant sur elle entre 9 et 13 coups de feu au moyen d'une carabine semi-automatique. La preuve n'a révélé aucun mobile rationnel de meurtre. Pour comprendre ce qui s'est passé, nous devons examiner à fond le fonctionnement de l'esprit déséquilibré de M. Oman. Pendant un certain nombre d'années, M. Oman a souffert de troubles mentaux décrits comme une psychose paranoïde accompagnée d'idées délirantes. Il avait la conviction fausse et fixe d'être la cible de complots et de situations le mettant en danger. Les troubles de M. Oman ont abouti à son hospitalisation en 1984, 1988 et en février 1991, peu avant le meurtre de Mme Beaton. Donc, on voit ici, c'est un trouble mental qui existait donc chez lui depuis quand même un certain nombre d'années. Au moment du meurtre, M. Oman était, à cause de sa paranoïa, obsédé par l'idée que les membres d'un syndicat local complotaient pour le détruire. En novembre 1986, il a été frappé sur la tête et volé pendant qu'il était au volant d'une voiture taxi. M. Oman a attribué cet incident au fait qu'il avait conduit certaines personnes à l'une des usines locales pendant un différent travail. Ses amis des médecins ont témoigné qu'il était devenu paranoïaque et croyait que l'on attendrait encore à sa vie. C'est à ce moment que Gina Lynn Beaton est entrée dans la vie de M. Oman et est tragiquement devenue victime de ses idées délirantes. Donc, en fait, pour vous résumer ça très rapidement, en fait, c'était une de ses amies. Elle avait demandé de rester chez lui pendant un certain temps, puis en échange, elle faisait le ménage, etc. Et il a accepté donc de l'héberger. À un moment donné, il a commencé à développer des idées délirantes. Il était persuadé que Mme Beaton, en fait, faisait partie du complot visant à l'éliminer. Et un soir, il s'est levé. Il y a un individu qui avait sonné à toutes les portes des appartements de l'immeuble, et il a pensé que c'était le signal qui avait été donné par les membres du syndicat pour l'éliminer, et il a fait feu sur Mme Beaton alors qu'elle dormait. Donc ici, on plaide la défense de l'aliénation mentale. Premier critère, c'est quoi? C'est la présence d'un trouble mental. Ici, il n'y a pas de problème. Monsieur Beaton souffre d'une psychose paranoïde avec idées délirantes, donc une perte de contact avec la réalité, et ce trouble mental est présent chez lui depuis de nombreuses années. Donc, le premier critère passe, il n'y a aucun problème. Maintenant, par rapport à l'incapacité, on l'a vu, M. Beaton savait ce qu'il faisait. Il savait qu'il avait une arme dans ses mains, il savait qu'il pointait la carabine en direction de la victime et il savait qu'il faisait feu sur elle. En plus, il était conscient qu'en faisant feu sur Mme Beaton à bout portant avec une carabine de fort calibre, il savait que ça allait causer sa mort et c'est l'intention qu'il avait lorsqu'il a fait feu sur elle. Donc, il est capable de juger de la nature et de la qualité de son acte. Et à partir de ce moment-là, on s'est donc interrogé sur le second critère d'incapacité, qui était l'incapacité de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais. Ici, M. Oman, il est conscient qu'un meurtre, c'est un acte illégal en vertu du code criminel. Il est conscient également qu'un meurtre est perçu de façon générale par la population comme un acte qui est moralement mauvais. Le seul problème qui arrive, et c'est là que je trouve que la décision est excellente, ce qu'on dit essentiellement, c'est que M. Oman, malgré cette connaissance, était incapable de juger de façon rationnelle et donc de faire un choix rationnel quant au caractère bon ou mauvais de ses actes. Il a fait un choix. M. Oman, lorsqu'il a décidé de tirer sur Mme Beaton, il a fait le choix de tuer la victime. La seule affaire qui arrive, c'est que ce n'est pas un choix véritable. C'est un choix qui est dicté par ses idées délirantes, d'où la présence d'une certaine forme de déterminisme. Donc, il n'y a pas de choix véritable et à partir de ce moment-là, on a reconnu l'irresponsabilité de M. Oman. Alors, moi, je pense que c'est un critère qui est excellent parce que c'est un critère qui se rattache, qui se rapporte au fondement même de la responsabilité pénale, cette notion de choix. Notion de choix, en fait, qui peut être, je ne sais pas moi, qui peut être supprimée soit par différentes causes, par exemple, les questions de nécessité, etc., mais également par la question de la maladie mentale. Donc ici, il est capable de réfléchir, mais cette réflexion s'inscrit dans un cadre référentiel qui est complètement dominé par ses idées délirantes, d'où son irresponsabilité. Donc, en fait, c'est ça, les différentes conditions de la défense de l'aliénation mentale. Alors, moi, ce que je vous propose essentiellement, c'est d'étudier, en fait, les principales maladies que l'on retrouve en médecine à la lumière des conditions d'ouverture qui ont été développées par la jurisprudence dans les arrêts de la Cour suprême. La première maladie qu'on va étudier ensemble ce soir, c'est la schizophrénie et autres troubles psychotiques. En fait, c'est la maladie mentale qui correspond le plus aux symptômes qui sont énoncés à l'article 16 du Code criminel. Qu'est-ce qu'une psychose, hein? C'est la question qu'on doit se poser. Eh bien, une psychose, essentiellement, c'est une perte de contact avec la réalité. Cette perte de contact avec la réalité s'exprime de deux manières, soit par l'apparition d'idées délirantes ou soit par l'apparition d'hallucinations prononcées. C'est quoi une idée délirante? Une idée délirante, c'est une croyance erronée de nature pathologique. En médecine, on distingue généralement les idées délirantes bizarres, les idées délirantes non bizarres, bien que vous allez voir, ça reste quand même toujours bizarre, là. On fait quand même la distinction entre les deux. Un exemple d'idée délirante bizarre, c'est la croyance du malade qu'un étranger s'est, par exemple, emparé de ses organes pendant son sommeil et qu'il les a remplacés par ceux de quelqu'un d'autre sans laisser de plaies ou de cicatrices apparentes. Il y a également une croyance très fréquente, c'est lorsqu'un individu croit que son corps est contrôlé à distance par ordinateur. Ça, on voyait pas ça dans les années 50, des années 60, bien entendu, là. C'était contrôlé par d'autres choses, mais à cette heure, on voit ça quand même assez souvent, là. L'individu est persuadé que son corps est sous l'emprise d'une force extérieure et que ses mouvements ou ses pensées sont contrôlés par ordinateur à distance. Ça, ce sont des exemples, en fait, d'idées délirantes bizarres parce que c'est complètement chimérique. Lorsqu'on parle des idées délirantes non bizarres, il y a un certain ancrage dans la réalité. L'exemple d'idées délirantes non bizarres, ben c'est le cas de M. Oman. M. Oman était persuadé, par exemple, que des individus complotaient contre lui parce que, bon, il avait conduit des briseurs de grève chez l'employeur en cause. Il y a également la fameuse cas de McNaughton, qui est à l'origine de la défense d'aliénation mentale. Lui, dans son cas, ben il était persuadé qu'il était victime de complots mis sur pied par le Parti conservateur en Angleterre. Donc, on voit, il y a un certain ancrage, il y a une certaine prise dans la réalité. C'est pas aussi bizarre que les idées précédentes, mais ça demeure quand même les symptômes d'une maladie importante. Maintenant, les hallucinations. Quand on parle d'hallucinations, là, on tombe complètement dans un autre registre. Là. On parle de perturbation des perceptions. Donc, il y a autant d'hallucinations qu'il y a de sens. On a des hallucinations auditives, on a des hallucinations visuelles, on a des hallucinations gustatives, tactiles, etc. Mais je vous dirais que de façon prédominante, on voit ça quand même assez souvent. Ce qu'on voit le plus, ce sont des hallucinations à la fois auditives et visuelles. C'est un peu, en fait, ce que plaidait la défense dans le procès de Luca Rocco Magnotta. Dans le procès de Luca Rocco Magnotta, essentiellement, ce que la docteure Marie-Frédérique Allard disait, c'était que l'accusé souffrait de schizophrénie et qu'il était, en fait, persuadé, ça c'est une idée délirante bizarre, il était persuadé que la victime était un agent du gouvernement et qui lui voulait du mal. Donc, vous voyez quand même la ressemblance avec Oman, avec le cas de McNaughton. Donc, il était persuadé, en fait, qu'il était victime de surveillance de la part du gouvernement. Et la psychiatre avait également relevé des hallucinations auditives. Elle dit dans son rapport, « M. Magnotta rapportait qu'il entendait rire dans sa tête, il entendait parler, il se demandait ce qui se passait, il pensait que l'on avait envoyé Legion pour lui faire du mal et le tuer. » Alors, c'est essentiellement donc ce qui est arrivé. Et ça, c'était donc la prétention de la défense, c'est-à-dire que M. Magnotta souffrait de schizophrénie. Ça n'a pas été accepté, on le sait, mais la défense quand même était bonne et c'est un moyen de défense, comme je vous dis, la schizophrénie, c'est essentiellement la maladie qui correspond le plus à l'article 16, parce qu'il y a une perte de contact avec la réalité. Donc, on peut, d'une certaine manière, là, assimiler quasiment la défense d'aliénation mentale à une psychose ou à une perte de contact avec la réalité. Donc voilà pour ce qui est de la schizophrénie et des autres troubles psychotiques. Maintenant, je vais vous parler de la dépression. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à la schizophrénie et aux autres troubles psychotiques, la dépression n'est pas un trouble qui affecte le rapport avec la réalité. L'individu conserve le contact avec la réalité. C'est un trouble de l'humeur. Donc, on le sait, comme par exemple en médecine, la dépression, ça se caractérise par un sentiment d'abattement, de tristesse, par la perte d'intérêt pour des activités qui auparavant étaient chères aux yeux de l'individu. Donc ici, ce ne sont pas des symptômes qui touchent à sa perception de la réalité. Et je vous dirais, là, j'ai lu quand même beaucoup de décisions sur la dépression, mais là, on peut mettre là-dedans les troubles d'adaptation avec humeur dépressive qu'on retrouvait chez Guy Turcotte au moment du crime. C'est plus complexe parce qu'il y avait également de l'intoxication, etc., mais une dépression ou un trouble d'adaptation avec humeur dépressive, dans 98% des cas, ça donne pas lieu à une cause de non-responsabilité pénale. Ça, c'est un fait qui est avéré. À moins là, qu'il y ait une désorganisation complète de l'état d'esprit de l'individu, ce qui est extrêmement rare. J'ai vu ça dans deux cas et je pense qu'on a quand même été assez clément avec l'individu. Il n'y a pas d'irresponsabilité criminelle lorsqu'une personne souffre d'une dépression. À moins également que cette dépression soit accompagnée d'idées délirantes ou de symptômes psychotiques. À partir de ce moment-là, il y a une perte de contact avec la réalité. Je ne sais pas si vous comprenez, là, mais tu peux souffrir d'un trouble de l'humeur, que ce soit une dépression ou un épisode maniaque, et ce trouble de l'humeur-là peut être accompagné de symptômes psychotiques. C'est-à-dire tu perds contact avec la réalité. À partir de ce moment-là, là, tu deviens encore une fois sous l'emprise, tu vas agir sous l'emprise d'idées délirantes ou d'hallucinations, et là, ta responsabilité va disparaître. Alors, à partir de ce moment-là, donc, il faut quand même faire attention. C'est sûr et certain que la dépression peut affecter dans la culpabilité d'un individu, mais de là à affecter sa responsabilité, c'est d'autres choses. Les autres troubles qu'on va regarder ensemble, ce sont les troubles de la personnalité. Les troubles de la personnalité, comme le nom l'indique, mais ce ne sont pas des troubles qui, encore une fois, affectent le rapport avec la réalité. Ce sont des troubles qui touchent directement à la personnalité de l'individu, à sa manière de se concevoir, à sa manière d'être, à sa manière d'agir. De façon générale, lorsqu'on pense aux troubles de la personnalité en droit criminel, on doit automatiquement penser aux troubles de la personnalité antisociale. C'est quoi un trouble de la personnalité antisociale? Des fois, on va confondre personnalité antisociale avec les psychopathes. Ça va. Il y a quelques petites différences, mais c'est vrai, tous les psychopathes ont une personnalité antisociale, mais ce ne sont pas toutes les personnes qui ont une personnalité antisociale qui sont des psychopathes, mais ça, c'est des nuances plus ou moins importantes à ce stade-ci. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Orange Mécanique. Ça, c'est le meilleur exemple d'une personne qui souffre d'une qui a une personnalité antisociale. On voit chez l'individu, donc, il y a une commission répétée d'actes criminels, d'actes de violence. L'individu manifeste une indifférence froide à l'égard des sentiments d'autrui, donc très, très peu d'empathie envers les victimes. Faible tolérance à la frustration, niveau de cruauté, niveau d'agressivité assez élevé, intelligence intacte. Donc, ça fait un cocktail quand même assez explosif, mais c'est quand même une condition qui, oui, c'est un trouble mental, mais c'est pas un trouble mental qui va entraîner l'incapacité qui est nécessaire pour qu'il y ait un verdict de non-responsabilité criminelle. Même si il y a de plus en plus d'études qui semblent indiquer que les personnes, par exemple, qui souffrent de psychopathie, bon, il y a des régions spécifiques dans le cerveau qui sont atteintes et qui vont affecter, par exemple, les émotions, la volition à la base de la construction de nos actions. Il demeure que, bon, c'est beau la médecine, là, mais il y a également des éléments de politique criminelle qui sont importants. Et si, je me rappelle, j'ai un étudiant au doctorat qui lui, semble dire qu'on devrait les traiter comme des personnes non responsables, mais par la suite, il dit que 15% des personnes dans les pénitenciers ont des troubles de personnalité antisociale. Donc, il y a un petit problème. On peut pas, du jour au lendemain, faire sortir 15% de la population carcérale, on aurait des problèmes un peu. En tout cas, c'est une question que j'ai posée, puis il est encore sur cette question. Il réfléchit encore là-dessus, là, mais c'est intéressant quand même. Donc, ça démontre qu'il y a quand même pas un déséquilibre, mais c'est faux de dire qu'il y a une adéquation parfaite ou que le droit est à la remorque de la médecine. Faut quand même faire attention, là. Il y a des enjeux qui dépassent les questions médicales et qui doivent être pris en compte par le droit criminel. Autre exemple de personnalité, de troubles de la personnalité, vous avez les troubles de la personnalité histrionique et narcissique. Essentiellement, ce sont les troubles qui ont été diagnostiqués chez Luca Rocco Magnotta, mais cette fois-ci par le psychiatre du ministère public, par le docteur Chamberlain. En fait, donc, d'après lui, il n'y avait pas de perte de contact avec la réalité, mais il y avait trouble de la personnalité, et à partir de ce moment-là, la responsabilité demeurait intacte. Ça va? Le dernier trouble que nous allons regarder, c'est le retard mental. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de façon générale, une personne qui souffre d'un retard mental grave ou profond, cette personne-là ne sera pas en mesure de subir un procès, tout simplement. Là. Lorsqu'on parle d'un retard mental, cette fois-ci, qui est intermédiaire, la personne souvent ne sera pas responsable ou même ne sera pas en mesure de subir également un procès. Lorsqu'on tombe dans les cas de déficience plus légère, en fait, celle qui se situe à la couture, en fait, de l'intelligence limite et de la déficience, là, ça devient beaucoup plus compliqué. De façon générale, la responsabilité demeure intacte, il y a quand même des exceptions. Une exception que je trouve intéressante, en fait, ben, je ne l'ai pas vu en jurisprudence, mais c'est un cas auquel j'ai quand même pensé un peu. C'est le cas des personnes qui souffrent de retard mental léger et qui commettent des actes d'attouchement sexuel. Là, on ne parle pas ici de viol, là, d'agression sexuelle avec violence, mais de gestes beaucoup plus subtils, comme par exemple des attouchements. Je vous donne l'exemple d'un individu de 33 ans, qui a un quotient intellectuel, en fait, qui équivaut à une personne d'environ 11 ou 12 ans. Et à un moment donné, je ne sais pas, quelqu'un prend une marche dans le bois derrière une école, et là on voit cet individu-là, les culottes baissées, en train de, par exemple, de procéder des attouchements sur un jeune de 11-12 ans. Et donc les deux expérimentent, si on peut dire, à partir de ce moment-là. Et là, il y a une plainte qui est portée à la police. Alors, comment qu'on va traiter la responsabilité de l'individu? Si à première vue, il semble y avoir une culpabilité évidente, je suis loin d'être certain que l'individu en question était capable, en raison de sa déficience intellectuelle, de juger d'une façon rationnelle et donc de faire un choix rationnel quant au caractère bon ou mauvais de ses actes. Je pense que, comme un enfant de 11 ou 12 ans, il y a une certaine forme d'expérimentation qui se faisait. Bon, je sais que si j'étais le père de l'enfant, je suis pas sûr que je penserais exactement de cette manière-là, mais il demeure qu'au point de vue juridique, c'est un fait qui est avéré. C'est un fait qui est avéré que sa déficience peut affecter sa compréhension et la signification de ces actes-là, l'empêchant ainsi de savoir que l'acte d'initiation était mauvais. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, voilà pour ce qui est donc des différentes conditions qui gouvernent la défense d'aliénation mentale, ainsi que du traitement qui est accordé aux principales formes d'anormalité psychique en droit criminel. Maintenant, je vais vous parler quand même assez brièvement, en fait, des modifications qui ont été apportées dernièrement au verdict, et plus principalement aux conséquences d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'un individu est déclaré non-responsable, normalement, il y a trois possibilités. Soit que la personne va être libérée inconditionnellement si celle-ci ne représente pas un risque important pour la sécurité du public. Soit il va y avoir une libération conditionnelle, ou soit que l'individu, on va ordonner sa détention dans un hôpital psychiatrique sous des modalités, en fait, que le tribunal ou la commission juge indiquées. Cependant, suite, en fait, à la libération conditionnelle de Guy Turcotte et également suite à l'assouplissement des conditions qui avaient été imposées à Vince Lee. Je ne sais pas si vous connaissez le Vince Lee, c'est cet individu qui avait, ça c'est dans l'Ouest canadien, c'est un individu qui avait décapité une personne dans un autobus de la compagnie Greyhound. C'est un cas qui avait quand même été assez médiatisé, mais dans l'Ouest. Alors, donc, suite à ces deux décisions-là, eh bien, le gouvernement canadien a décidé, en fait, de modifier les conséquences d'un verdict de non-responsabilité criminelle on a accordé à partir de ce moment-là une priorité à la question de la sécurité du public. Et cette priorité qui est accordée à la question de la sécurité publique, eh bien, est directement à l'origine, en fait, de la mise sur pied d'une nouvelle catégorie d'accusés à haut risque dans le code criminel. Donc, si le tribunal déclare que l'accusé est un accusé à haut risque, eh bien, automatiquement, on va ordonner sa détention dans un hôpital psychiatrique, sous des modalités que la commission ou le tribunal juge indiquées. Sauf que ce qui est intéressant ici de constater, c'est qu'à partir de ce moment-là, il va être impossible d'accorder une sortie à l'extérieur de l'individu pendant cette période-là, à moins de circonstances vraiment exceptionnelles. Donc, toutes les modifications qui ont été apportées suite à ces deux décisions-là, en fait, soulignent l'importance que l'on accorde de plus en plus à la notion ou aux valeurs de sécurité publique en droit criminel. On le faisait, mais là, on accorde vraiment une priorité à la sécurité du public par rapport, par exemple, à toutes les questions de liberté individuelle. Est-ce que c'est une bonne chose? Ben, théoriquement, je serais peut-être porté à vous dire que non, mais concrètement, je pense que oui, parce que en ce faisant, à mon avis, on a peut-être évité le pire. Je ne sais pas si vous le savez, mais aux États-Unis, suite à l'acquittement pour cause d'aliénation mentale de John Hinckley, c'était l'individu, en fait, qui avait tenté d'assassiner Ronald Reagan au début des années 80. Eh bien, suite à son acquittement pour cause d'aliénation mentale, il y a trois États américains qui ont aboli tout simplement la défense d'aliénation mentale. Et je pense que c'était un danger qui nous guettait. Sans qu'il y ait abolition du moyen de défense, on aurait pu très facilement jouer ou modifier les conditions d'ouverture du moyen de défense. Et on a décidé de laisser le moyen de défense intact, mais on a touché tout simplement aux conséquences d'un verdict de non-responsabilité criminelle. Et je pense que c'était une sage décision de la part du gouvernement. Alors, c'est essentiellement ce que je voulais vous dire ce soir. Et donc, merci de m'avoir invité. Merci. Des questions, s'il vous plaît?
Hello, everyone. Welcome to this panel. It's a pleasure to be here tonight. So what I will be addressing tonight is, in light of our current system, we are in the presence of a number of new mandatory minimum sentences that are being enacted. Essentially, generally, a mandatory minimum is basically a sentence that removes the discretion of the judge to decide other sanctions than imprisonment. So these are the types of mandatory sentences that I will be addressing. And I will be looking at the transfer of power that this situation has done. So we have essentially transferred the sentencing power from judges to prosecutors, since prosecutors are the ones now that will be triggering these mandatory minimums through a number of their decisions. So, and basically the judge is linked and in a number of situations, the judge will not have any other option than the mandatory minimum of imprisonment. So by these decisions, by this prosecutorial discretion, there is somewhat of a transfer of power. And I'm looking at this through the angle of the Aboriginal overrepresentation in our system. So as you may know, and we will look at some of the statistics, Aboriginals are among the most overrepresented individuals in our society. And what I ask as a question is whether there should be additional ethical obligations or some kind of obligation that prosecutors should indeed look at principles of proportionality and also principles of, or should look at the background of Aboriginal offenders before triggering these mandatory minimums. So this is the essential question that I ask in terms of should we recognize an ethical duty for prosecutors to actually think about these questions when deciding to trigger mandatory minimums. So just to give you a few numbers in terms of this rise of mandatory minimums, we approximately have about 100 mandatory minimums in the books today. The number of mandatory minimums is on the rise, so there have been a number of additional ones. In 1986, so this, 1987, which was the very first decision by the Supreme Court that looked at mandatory minimums in the regime, we were only at about 9 mandatory minimums. And now, obviously, from 1987 until today, obviously, the number has increased, and it will continue to increase since the current government has decided to maintain this policy and will continue to enact further mandatory minimums. So some of the consequences are basically the erosion of proportionality. And what do I mean by this is that when a judge decides a sentence, there are a number of principles that need to be considered, including the main principle in Canadian law, and that has recently been recognized as a principle of fundamental justice, which is the proportionality of sentences. So in other words, a sentence must be proportionate to the gravity of the offense and the level of blameworthiness of the offender. So there are a number of aggravating and mitigating circumstances that could actually be looked at. But the rise of these mandatory minimums, having set a mandatory minimum of imprisonment, judges are tied down and cannot go below this, even if there are a number of mitigating factors that may have attenuated the sentence and may have ordered a quantum that normally should have been lower than the mandatory minimum. So obviously it ties down the hands of judges. The only way that they could not apply this mandatory minimum is by a Section 12 challenge, so going through the cruel and unusual punishment in order to make sure that this provision is just declared unconstitutional. However, the standard required is extremely high, and we're still waiting to hear the Supreme Court in a recent decision, so we will hear the case in Noor to see whether the standard will decrease or increase in terms of what is a cruel and unusual punishment. To date, in order for a sentence to be considered cruel and unusual, there needs to be gross disproportionality. So again, the threshold is much higher than a mere disproportionality. So there is already a discrepancy between disproportionality in terms of the Section 7 principle of fundamental justice and Section 12, which requires a standard that's even higher. So effectively what happens is that in light of these mandatory minimums, there are a number of judges will not have any other options than to actually hand out disproportionate sentences. So in addition to this, we have some more complexity and some more elements that don't make much sense. So when we look at Section 718.2E of the Criminal Code, we see that for Aboriginal offenders, there needs to be a specific, there's a different framework of analysis when we come to the determination of sentences. So the framework consists of looking at the unique background of Aboriginal offenders to determine what exactly has played a role in the commission of this of the offense. This sometimes could be rooted in elements that are directly linked to colonial past, or it could be essentially elements in the background of many Aboriginal offenders, including alcoholism, drugs, poverty, everything related to the socioeconomic status that might be more problematic. And these elements are meant to be considered as possibly mitigating factors at sentencing. Obviously, if a person comes from a certain background or has had some difficulties, there may be ways to actually consider it as a mitigating factor, and also that provision also tells judges and mandates judges to find other solutions other than incarceration. These are remedial type of solutions to the problem of over-incarceration of Aboriginal offenders. So just to give you a few statistics, so in Saskatchewan, although the Aboriginal people form only 11.9% of the total population, 77.6% of the prison population is of Aboriginal offenders. Similarly, in Manitoba, although Aboriginal people constitute 12.9% of the population, 69.1% are Aboriginal offenders in prison. In Ontario, Aboriginal form 1.8% of the population and 11.4% of the prison population. And in Quebec, while Aboriginal people form 1.3% of the population, they represent 4.4% of the prison population. So these numbers may also be much higher since these statistics do not include admissions to custody in which Aboriginal identity is unknown. So in many cases, they may just not have disclosed the identity, or authorities may not have asked the identity of the individual. So despite this legislative duty to take into account background elements and to actually find alternative measures other than imprisonment, there are the presence of these mandatory minimums, and which basically ties down judges. So another phenomenon that I briefly alluded to is that there is a transfer of powers towards prosecutors, because prosecutors are the ones who actually trigger these mandatory minimums by making a number of decisions. For example, by deciding to charge certain crimes that have mandatory minimums, or by refusing to accept guilty pleas to lesser offenses, also by electing to proceed by indictment, where instead of a summary offense, where the indictable offense may have a mandatory minimum. Those are other ways to actually trigger these mandatories. And by sometimes sending appropriate notice of intention to seek greater punishment when there are different or previous convictions. So the question that is asked is, due to this transfer of power, the fact that prosecutors have immense power and to determine basically the sentencing options of offenders, are there also obligations that go along with that? Are there any other, are there any constitutional duties, for example, to seek about Aboriginal background, or to think about the issue of, and taking into consideration Aboriginal background? So in Anderson, which is a very recent case of 2014, the Supreme Court decided that there is no constitutional duty upon prosecutors to take into account proportionality and to take into account Aboriginal background. They state that this is, this is basically the role of prosecutors are distinct from those of judges. So make a clear distinction that judges are the ones who sentence and not prosecutors. And also resting their decision on the fact that if there was an actual principle of fundamental justice that was attributed to prosecutors, then this would require some judicial oversight on prosecutorial discretion. And because of the separation of powers, there should not be any kind of oversight on prosecutorial decisions. So basically, this decision rests on there's major resistance on increasing oversight of prosecutorial decisions. There are a number of other decisions that go along this way. So Anderson was no surprise in terms of the way that the court has highlighted that there is no constitutional duty in that respect. So this is basically the prosecutorial discretion is extremely wide and quasi-unfettered. So unless there's an actual abuse of process, so a case very rarely seen where a prosecutor is of bad faith, for example, and there's actual evidence of this, there will not be any ways that judges could actually oversee or actually inquire about the motives and actually the elements behind that decision. So there is no constitutional duty upon prosecutors. The question is, should there be some other form of duty? The courts have not engaged with that. They have not asked that question. So what I argue is that there should be at least some ethical duty on prosecutors to consider Aboriginal background and to actually think about these principles of proportionality when triggering these mandatory minimums. So this stems from the role of prosecutors as ministers of justice. So I will highlight a bit what their role is meant to be doing in an overall criminal justice system. And also the fact that there is empirical work that highlights that prosecutors have indeed contributed to disproportionate sentences and have in the past discriminated on a number of issues related to Aboriginal offenders. So based on these elements, I argue that there should be at least some ethical role for prosecutors to actually consider these elements when triggering mandatory minimums. So the role of prosecutors, first of all, as a minister of justice, is meant to be is linked to the fair operation of the criminal justice system and is meant to be fair for all participants. So not only the public, but also victims and the accused. So although prosecutors act in an adversarial model and are meant to be effective advocates for the prosecution, they also serve duties towards the community and also towards making sure that their adversarial role is not unduly harsh, or they cannot also adopt a purely adversarial role towards the defense. They're not supposed to be people who look at winning or losing. They are meant to exercise their discretion and their decisions, considering all elements, and also their role is not to seek the highest sentence either in a case, and is not indeed to pursue any convictions, but rather to ensure that justice is done in a specific setting. They also have to protect and also represent public interest. So one of the leadership roles that the role of the Crown should play is also work towards overcoming forms of discrimination, making sure that various forms of discrimination are not reflected in the criminal justice process. So all these elements are tied in with the principle of proportionality, and also with including and taking into account the status of Aboriginals in their decision-making. The Supreme Court in Anderson highlighted the distinctive roles of prosecutors versus judges. However, one of the issues with that is stating that basically sentencing judges are the only ones that look at elements of proportionality and aboriginality, which is in of it itself minimizing the issue of overrepresentation. If we want a system that looks at overrepresentation seriously, we need to look at the evidence of what causes this overrepresentation of Aboriginal offenders. And there are a number of studies, including the inquiry, the Aboriginal Justice Inquiry in Manitoba in 1999, as well as the Royal Commission of the Donald Marshall prosecution, that has actually stated that the overrepresentation of Aboriginal offenders is one of the main causes, is the discriminatory elements at many stages of the process, including by prosecutors. So there are evidence that shows that prosecutors actually overcharge, or even there are more multiple charges towards Aboriginal offenders than for similar types of situations for non-Aboriginals. And also a number of studies have concluded that, for example, in the Donald Marshall case, the commission concluded that certain people within the system would have been more rigorous in their duties and more careful, as well as most conscientious in the fairness if Donald Marshall was indeed white instead of being an Aboriginal offender. So basically there's a complete disconnect that exists in the current system. By not requiring prosecutors to take into account Aboriginal elements. And actually, some have even argued, and some studies have even shown, that it's not really judges that contribute to the over-incarceration, but rather it's at the charging decisions, and also at the police elements. So it's all the elements right before sentencing that actually lead to more discrimination and lead to the situation of Aboriginal overrepresentation in prisons. So I've looked at the sentencing guidelines in different provinces and came to the conclusion that there's actually not much in terms of explicitly requiring prosecutors to take into account the Aboriginal status of individuals. Ontario is the only province that actually considers these elements for different prosecutorial decisions. In other jurisdictions, for example, in the federal jurisdiction, Newfoundland and Prince Edward Island, there are only for, prosecutors need to take into account Aboriginal backgrounds for very specific offenses, including for domestic violence cases and impaired driving. Also, most of the provinces refer, or prosecutorial guidelines, refer to taking into account the background of the individual, but without much mentioning of what that consists and without direct direct reference to Aboriginal status. So, and finally, Quebec fails to mention anything related to the Aboriginal status of individuals. So, you know, in light of this analysis, there's not much in terms of, you know, any kind of ethical duty that prosecutors need to look at. One of the issues with recognizing ethical duties rather than an enforceable legal right might be that the enforcement mechanisms are not as strong. So when somebody breaches an ethical duty, you know, some might say, why recognize that? There's not much that anyone could actually, you know, there isn't much redress available in those instances. But we might think about other ways of proceeding, including other mechanisms that may exist in other jurisdictions. For example, in England and Wales, although prosecutorial discretion is heavily guarded, there have been recognition that in certain situations, complainants can actually second-guess prosecutorial decisions and could actually ask for motives behind decision-making. This is the case of the recently recognized right to review in England and Wales. So victims in the criminal process currently have a right to review and could actually So in decisions where the prosecutor decided not to prosecute or decided to drop prosecutions, they could actually bring in a review process in front of the Crown Prosecution Service in order to revise that decision by someone who hasn't been involved in the case. So this does not include judicial oversight. This is one form of review that actually is done within the prosecutorial service and is actually, I mean, in terms of transparency, it may be one of the main elements that's favorable is that the person will actually know what elements went into decision making. So, you know, by having somebody disclose or a prosecutor disclose what elements were taken into account, there's already one way forward towards transparency with this kind of system. Further, there's also the realization that prosecutors may indeed be wrong sometimes and, you know, that they may have done an error. So if you don't have any judicial oversight, but at least you have someone who knows and has worked into the prosecutorial office and is to some extent sees, you know, the fresh evidence and actually looks at the whole case from scratch, then there may be some more accountability to the current process that we have today. So these are just some kind of, you know, some reflections on possible ways to go forward. You know, I would argue that a mechanism like this could be one of the first elements that we may want to consider, you know, when prosecutors trigger mandatory minimums. So allowing somebody to actually know the motives behind this and actually, you know, we may want to think about whether this should be reviewable or not, but at least some kind of transparency on these decisions and why these have been done. Also, you know, in terms of reforming ethical guidelines, including Aboriginal background into these guidelines would also be obviously another step forward. So thank you very much for your time, and I'd be happy to answer any questions that you may have. Thank you.
Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Hugues. Before we move to the questions and answers period, I would like to give an opportunity to Simon, maybe to reply or share some thoughts on Hugues and Marie's talk. Et pareillement, Hugues, si tu as envie de rebondir sur la présentation de Marie, c'est l'occasion. Puis idéalement, si vous n'êtes pas d'accord sur certains points, c'est toujours intéressant d'entendre les experts débattre de points et de questions controversées.
Est-ce que je commence? En fait, je te remercie, Marie, pour ta présentation. Je vais commencer avec toi parce qu'on est, finalement à ton domicile. Là, tu joues à la maison. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu quel avenir tu vois pour les fameux sentencing circles, parce qu'à l'époque, c'était quand même une solution qui était adoptée, c'est-à-dire que plutôt que de vider le village de la Côte-Nord, moi je me rappelle d'un dossier, entre autres, dans lequel j'étais impliqué, où c'était une jeune fille dans le village autochtone qui était un peu, bon, la prostituée du village, et il y avait peut-être 17 hommes ou 22 hommes dans le village qui avaient des relations sexuelles avec elle, alors qu'elle avait moins de 14 ans. Bon, évidemment, ils étaient tous coupables de l'infraction de contact sexuel avec une personne de moins de 14 ans à l'époque, c'est rendu 16 ans aujourd'hui. Et là, on s'est dit, bon, on peut pas amener 16 ou 17 hommes du village dans les prisons du Sud, donc qu'est-ce qu'on va faire? Et on a réglé ça avec un genre de sentencing circle, qui est un peu la communauté qui se prend en charge et qui trouve une solution face à ça. Est-ce que c'est la fin de cette méthode de résolution de conflits un peu à la PRD, là, à la prévention, règlement des différends, qui parfois fonctionne assez bien. On l'avait fait aussi de mémoire avec les Tutsis là, au Rwanda, où il y avait eu ce qu'on appelait la justice à l'ombre du bananier. Donc on se réunissait tous en dessous de l'arbre, on essayait de trouver une solution parce que, écoutez, il y avait la moitié de la population qui devait passer à procès pour avoir tué l'autre moitié de la population. Là, donc à un moment donné, il manquait de juges. Donc, est-ce que c'est la fin de cette méthode alternative? Parce que s'il y a une peine minimale, théoriquement, il n'y a pas de possibilité. Non?
J'imagine que ça dépend vraiment du forum ou de la méthode de fonctionnement de ce sentencing circle. Il y a certains sentencing circles qui sont justement parallèles à la sentence. Je pense pas qu'il y a beaucoup de fonds, c'est ça le problème, qui sont émis sur ce genre de méthode, mais c'est sûr qu'avec ces peines minimales-là, ça ne va pas être la solution première qui va être véhiculée, ça ne va pas être une approche plus restaurative, comme on dit, comme la Cour suprême avait reconnu, qu'il faudrait premièrement essayer de trouver des méthodes alternatives à l'emprisonnement. On est définitivement, on s'éloigne de ça. La question est-ce qu'on peut avoir deux systèmes, par exemple, qui, suite à une peine d'emprisonnement, est-ce que l'accusé ou la personne qui est rendue coupable, est-ce qu'il y aurait un incitatif, justement, d'aller dans ce genre de sentencing circle une fois qu'elle a été retrouvée coupable? C'est des bonnes questions qui se posent, mais je pense que, justement, le financement est plus à la construction de prison qu'à ce genre de méthode alternative.
Ça crée de l'emploi, la construction de prison, c'est davantage.
Effectivement.
Désolé. Et Hugues, si tu me permets, je sais que tu étais impliqué dans le dossier de Guy Turcotte, là, donc je ne veux pas... je ne vais pas me mettre dans l'embarras, mais quand j'ai lu le jugement de la Cour d'appel, je dois avouer que j'ai sursauté, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'intoxication. Et dans le jugement de la Cour d'appel, il y a un passage où on semble dire que l'intoxication serait involontaire si, dans le fond, elle était due à des troubles mentaux. On sait qu'avec Bouchard-Lebrun, s'il y a de l'intoxication, et que ça amène à des troubles mentaux, ben la défense de troubles mentaux n'est pas là, c'est 33.1 qui s'applique, ça règle le problème. Mais dans le cas de Turcotte en cours d'appel, on semble avoir vu l'inverse. Il y a des troubles mentaux en premier, il y a une intoxication par la suite, et on semble dire, ben, si l'intoxication est mal vue, ou plutôt est mal perçue par l'accusé, ou l'accusé ne réalise pas ce qu'il est en train de faire en raison de ses troubles mentaux, c'est une intoxication volontaire. Et là, ce qu'on comprend, c'est que l'intoxication volontaire, 33.1 ne s'applique pas.
C'est une intoxication involontaire.
C'est ça, involontaire. 33.1 ne s'applique pas. On vient aux règles de King, de la Cour suprême, d'Avio aussi par ricochet. Et là, ça permettrait un acquittement complet. Là. Ça, moi, je ne l'avais pas vu venir, je t'avoue.
Oui, bon. Premièrement, je dois préciser, j'ai travaillé sur comme conseiller lors du procès en première instance. Au niveau de l'appel, je n'étais pas impliqué du tout. Je suis d'accord avec toi. J'ai lu cette phrase. C'est une phrase qui sort out of nowhere, là, vraiment. Là, mais je pense que c'est. Je pense pas que ça va avoir un impact significatif parce que je pense que quand tu bois un gallon de lave-glace, ça demeure une intoxication volontaire. Dans la mesure, tu le sais, Simon, l'intoxication volontaire, c'est lorsqu'un individu sait ou devait savoir que la substance qu'il prenait allait entraîner une intoxication. Je pense que son objectif, c'était de se suicider. Donc, à partir de ce moment-là, il était fort conscient des effets nocifs de la substance qu'il consommait. Un commentaire, moi, qui m'a fait sursauter, je vais être franc avec toi, dans la décision, et probablement que ça découle un peu des rapports qui ont été faits par les psychiatres, mais je les ai lus, les rapports, puis je vais pas me prononcer là-dessus, mais c'est le fait de qualifier un trouble d'adaptation avec humeur dépressive comme étant un trouble mental extrêmement grave. Je suis pas un psychiatre, mais c'est pas un trouble mental extrêmement grave. Un trouble d'adaptation avec humeur dépressive, c'est lorsque, par exemple, tu es confronté à un événement stressant, une séparation, une perte d'emploi, et à partir de ce moment-là, pendant un certain temps, tu es plus fonctionnel dans tes tâches. On n'est même pas rendu, il souffre même pas d'une dépression, on peut même pas qualifier ça comme étant une dépression ou un épisode dépressif. Donc, à partir de ce moment-là, là, j'ai des difficultés avec cette appréciation, en fait, du degré d'incapacité qui découle de la maladie. Mais j'ai également noté ce que tu as dit. Et à mon avis, ça n'aura pas vraiment d'impact. En tout cas, ça n'aura pas d'impact sur le procès qui va être. Je pense pas que le juge de première instance va se lancer, va se poser comme question, est-ce qu'on est face à une intoxication volontaire ou involontaire? Est-ce que la personne était dans un état conscient qui lui permettait de s'intoxiquer involontairement ou non? Je pense que on part avec les prémices que l'intoxication, elle était volontaire. Le gars, il avait l'intention de s'intoxiquer. Il savait qu'en prenant la substance, que ça allait causer tel et tel effet. Donc, à mon avis, parce que ça, on se lance là-dedans, là, ça commence à être dangereux. Là, parce que là, c'est jusqu'où on va remonter pour qualifier le geste d'involontaire ou de volontaire. Là, on n'en finit plus avec ça. Là, le jeune homme avait des problèmes, donc il a décidé de prendre de l'ecstasy. Après ça, il a fait une psychose. Mais est-ce que c'était vraiment une consommation volontaire? On le sait, il y avait beaucoup de problèmes, donc ça a peut-être affecté son jugement. Donc, on finit plus, là. Et c'est pour ça que, à mon avis, on doit l'interpréter comme ça, c'est-à-dire comme une phrase qui est intéressante, qui pose certains questionnements, mais je pense pas qu'on aille vraiment très loin avec cette... Mais c'est une bonne question que tu me poses. Je vais être franc avec toi, là, puis c'est une observation que j'avais faite également, Simon, à la lecture du jugement, qui est quand même bon, par ailleurs, mais c'est une bonne question.
Juste une autre question.
Oui,
oui. Tu soulignes ici le cas que Turcotte, pour un professeur d'université, en tout cas, là, c'est presque un open and shut case, là, c'est une défense qui n'existe pas, en gros, dans les conditions qu'on trouve, surtout en vertu de son témoignage. Peut-être un peu plus proche. Surtout en vertu de son témoignage. La question qui se pose, c'est est-ce qu'un procès devant jury, dans des cas de troubles mentaux, est-ce que c'est encore une bonne nouvelle? Moi, ce qui me dérange, c'est qu'au Canada, et je dis ça à mes étudiants, là, au Canada, vous ne trouverez jamais un jugement écrit pour un meurtre. Ça n'existe pas. Okay? Pourquoi? Parce que les cas de meurtre vont automatiquement devant jury. Donc, si vous cherchez un jugement de première instance pour un cas de meurtre, il n'y en a pas. est-ce qu'on devrait peut-être faire une croix sur le procès devant le jury pour les troubles mentaux?
La réponse, selon moi, c'est oui. Je pense que là, on est rendu à un point où les connaissances médicales sont tellement avancées, ça devient tellement compliqué que je pense qu'on s'y perd un peu. Le meilleur exemple, c'est le procès de Luca Rocco Magnotta. Même les psychiatres, là, il y avait la confusion. Là, on pouvait voir qu'il y avait une certaine confusion parmi les psychiatres par rapport à la qualification, par rapport aux symptômes observés chez l'individu. Ça devient tellement complexe. Je pense qu'on devrait effectivement là, peut-être régler cette question-là différemment. Soit, par exemple, de faire nommer par la Cour des experts qui, de façon très objective, en dehors d'un débat contradictoire, pourraient donner leur opinion sur la qualification, sur les symptômes ainsi que sur la qualification de l'état mental de l'individu. Parce que, premièrement, il faut comprendre que c'est extrêmement compliqué de faire une expertise psychiatrique. Pourquoi? Parce que, un, c'est compliqué, et deux, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait le psychiatre? Ce qu'il faut comprendre, et moi, ça, je l'ai vraiment vu dans l'affaire Turcotte, c'est que les psychiatres, comme vous et moi, n'ont pas un accès direct à l'état d'esprit de l'individu. Donc, ce qu'ils vont tenter de faire essentiellement, c'est qu'ils vont tenter de reconstituer l'état mental de l'individu à partir de certains éléments, comme par exemple, dans l'affaire de Magnotta, à partir des diagnostics qui ont été posés antérieurement par un individu en Ontario ou en Allemagne, dans des conditions qu'on connaît pas. Il y a également des observations qui ont été faites avant, après les événements en question, les témoignages des proches, etc. Donc, le psychiatre, ce qu'il va tenter de faire, c'est qu'il va tenter de reconstituer l'état d'esprit de l'individu. Mais ce qu'il faut comprendre, et ça, je l'ai vraiment vu, je l'ai vraiment ressenti, c'est que la différence entre la reconstitution et la construction de l'état mental de l'individu, elle est très, très mince. Et à partir de ce moment-là, donc ça devient extrêmement dangereux lorsqu'en plus on insère cette question-là dans un débat qui est complètement contradictoire. Et là, à partir de ce moment-là, donc, je ne veux pas dire que les psychiatres ne sont pas objectifs, loin de là, mais à partir du moment où tu t'associes à une partie, automatiquement, il va y avoir une présomption de partialité qui va s'appliquer. Et cette présomption de partialité-là, à mon avis, elle est très dommageable parce qu'elle mine la confiance du public dans le système judiciaire de façon générale et dans le moyen de défense également. Et ça, c'est très dommage parce que c'est fragile, le moyen de défense. Moi, je le croyais pas parce que, tu le sais, nous, on l'enseigne. Je travaille pas avec ça à tous les jours en cours, mais j'ai vraiment vu qu'après l'affaire de Guy Turcotte et après également sa libération conditionnelle, le moyen de défense, de façon générale, à mon avis, son existence était en jeu, selon moi.
Si je peux me permettre, Hugues, pour poursuivre là-dessus, le débat va probablement se poursuivre aussi dans le contexte de l'affaire de Lille. Je ne sais pas si vous avez écouté le reportage qui a été diffusé en enquête il y a quelques jours, mais ça m'a frappé de voir Pierre Michaud, l'ancien juge en chef de la cour d'appel, lui-même, se poser cette question-là, puis se demander si vraiment on devrait mettre ces questions-là entre les mains du jury, surtout que, comme Simon nous le rappelait, la question à laquelle on leur demande de répondre est une question de droit au final, hein, parce que c'est une conception juridique, donc très complexe, qui repose aussi sur des notions médicales, scientifiques. Elles sont pas complètement déconnectées. Et c'est ce qu'on demande à 12 profanes d'analyser au final. Alors, on pourra poursuivre cette réflexion-là sûrement dans le contexte de l'affaire de Lille. Mais Hugues, je voulais peut-être te poser une autre question aussi sur la question des troubles mentaux, parce que, bon, Turcotte est un dossier très médiatisé, ça a interpellé le public de plein de façons, puis on constate que le public réagit à la fois fortement et négativement à cette défense-là. Oui. Moi, je ne suis pas du tout un expert en droit criminel, mais je suis un citoyen intéressé dans ces affaires-là, puis j'ai l'impression, qui est peut-être fausse, mais qu'on assiste à une certaine remise en question de la légitimité même de cette défense de troubles mentaux. Est-ce que c'est juste, ou est-ce que finalement, dans l'histoire, il y a toujours des moments ou des procès comme ça qui redonnent au public l'occasion de manifester son incompréhension face à ce genre de questions-là? Est-ce qu'il se passe quelque chose en ce moment? Puis si oui,
Quel impact cette opinion publique changeante est susceptible d'avoir sur l'évolution de cette défense-là dans un avenir rapproché, surtout que on a un gouvernement à Ottawa qui semble élaborer sa politique en matière de law and order, de loi et l'ordre, en se fondant sur un cocktail que certains jugeront explosif d'idéologie et de populisme. Oui. Alors, on dirait que les planètes s'alignent pour peut-être que des changements fondamentaux, peut-être troublants, surviennent au cours des prochaines années. Est-ce que c'est une lecture qui est raisonnable de ce qui se passe, selon toi?
Elle l'était peut-être il y a environ 2 ans. Là, je pense que le danger est écarté dans la mesure où on a ordonné un nouveau procès dans le cas de Guy Turcotte, puis on a assisté à un verdict de culpabilité de meurtre dans le cas de Luca Rocco Magnotta. Donc, on voit, c'est pas facile de plaider une défense d'aliénation mentale au Canada. Ça l'est encore moins depuis l'affaire de Guy Turcotte. Là, ça, je dois l'admettre. Parce que, bon, le jury, de façon générale, est moins réceptif à ce genre de moyens de défense-là. Mais le problème qui arrive, c'est qu'on a tendance à juger de la pertinence ou de la légitimité de la défense d'aliénation mentale à travers le cas de Guy Turcotte. Mais le cas de Guy Turcotte, c'est pas représentatif de la défense d'aliénation mentale, parce que le cas de Guy Turcotte, la difficulté, c'est que cette affaire-là, là, c'était pas juste un trouble mental qui était plaidé, en fait, je le sais, parce que c'était, en fin de compte, l'accumulation d'un trouble mental qui est pas suffisant de façon générale pour entraîner une défense d'aliénation mentale, c'est-à-dire un trouble d'adaptation avec humeur dépressive, auquel s'ajoutait un état d'intoxication volontaire et une crise suicidaire. Donc, c'était l'équation, en fin de compte, qui était présentée au jury. C'était A plus B plus C. Puis, avec la décision de la Cour d'appel, là, on a dit c'est soit A soit B, mais c'est sûrement pas les deux. Alors, on a tendance, et c'est normal, au Québec, on a eu tendance à juger de la pertinence, de la validité même du moyen de défense à travers l'affaire de Guy Turcotte, parce que, bon, c'était la décision la plus importante depuis plusieurs années en matière d'aliénation mentale. Mais quand on pense à la défense d'aliénation mentale, comme je le disais tantôt, dans 99% des cas, c'est des cas de psychose. Et dans le reste des décisions, c'est des cas de démence, de délirium, où la personne, manifestement, n'est pas responsable. Alors, à partir de ce moment-là, un cas qui est représentatif d'une défense d'aliénation mentale, c'est ton fils qui, je ne sais pas moi, jusqu'à l'âge de 16, 17 ans, est parfaitement fonctionnel. Puis à partir d'un certain moment donné, tu te rends compte qu'il commence à être bizarre. Et là, il commence à développer des idées délirantes parce qu'on le sait, ça se manifeste à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Le petit gars devient persuadé, par exemple, que ton voisin, que le voisin est Satan, puis qu'il va détruire la terre ou qu'il va essayer d'assassiner son père. Et là, il sort et il tue le voisin. Mais de façon générale, tout le monde s'entend pour dire que l'individu est irresponsable. Dans la plupart des cas, c'est pas difficile une défense d'aliénation mentale. Ça devient difficile lorsqu'on est avec un cas limite comme Guy Turcotte ou on est avec un cas comme de Luca Rocco Magnotta où, écoutez, là, je vais vous le dire bien franchement, là, c'était loin d'être évident, là, le diagnostic de cet individu-là. Il y avait également des dangers de stimulation assez importants là, qui étaient impliqués dans cette cause-là. Donc, c'était loin d'être évident. Mais ça s'est soldé par un verdict de culpabilité. Pour meurtre. Un cas, à mon avis, beaucoup plus représentatif de la défense d'aliénation mentale, c'est celui là qu'on voit là au Colorado, l'individu qui est entré dans une salle de cinéma et qui a fait feu sur, je pense qu'il a blessé 70, il a tué une dizaine de personnes, il a blessé plus de 60 personnes. Ça, c'est un cas qui est représentatif de la défense d'aliénation mentale, et c'est là qu'on va voir jusqu'à où on peut aller avec la défense d'aliénation mentale, parce que plus le résultat est grave, plus on a des réticences à accepter le moyen de défense, mais plus l'acte est irrationnel, plus il y a de chances de provenir d'un esprit qui est irrationnel. Alors, ça vient nous confronter. Je ne sais pas si vous avez vu l'individu le lendemain, au moment de sa comparution, mais je pense que c'est assez évident qu'on est en présence d'une personne qui souffre de troubles mentaux, comme l'a dit la Cour d'appel du Québec, grave. Alors, à partir de ce moment-là, on ne parle plus d'un trouble d'adaptation occupant dépressive. On parle véritablement d'un trouble mental extrêmement sévère, perte de contact avec la réalité, etc. Alors, c'est comme ça que je vois la situation. Je pense que c'est pour ça que je dis que le gouvernement, d'une certaine manière, a réagi d'une manière que j'estime tempérée. C'est pas la première fois qu'on vient changer ou qu'on vient jouer dans les conséquences d'un verdict de nos responsabilités criminelles pour cause de troubles mentaux. Parce que, comme je le disais tantôt, suite à l'acquittement pour aliénation mentale de John Hinckley au début des années 80, tout le monde s'entendait quasiment pour dire on doit abolir la défense d'aliénation mentale. Et ce que les États, ce que le gouvernement fédéral américain et ce que la plupart des États ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement resserré ils ont été plus sévères par rapport aux conséquences découlant d'un verdict de non-responsabilité criminelle et ils ont resserré le critère, le fardeau de preuve en matière d'aliénation mentale. Avant, c'était au médecin public de prouver que l'individu était sain d'esprit, alors que à cette heure, aux États-Unis, dans la plupart des États, c'est comme au Canada, c'est à l'individu qui plaide la défense d'aliénation mentale de le prouver, selon la balance des probabilités.
Marie, you want to add something before we...
Just to make a small parallel between these two is that one question that we may want to ask ourselves is, you know, the possible lack of transparency in a number of elements. So when you look at a jury, basically, who decides whether somebody is, you know, can actually successfully bring forward that defense, the jury is not meant to write any of their motives. So, you know, if in case the jury misunderstood a directive, for example, or misunderstood the psychiatrist's report, nobody will ever know, you know, to what extent there may have been a misunderstanding. And in parallel, we also see, you know, the prosecutor in a number of decisions where there's actually no transparency into what may have led this decision or what elements were required into this decision making. So, I mean, you know, these are some of the questions is that, you know, we kind of brought into our system these, you know, kind of elements that maybe, you know, the prosecutor could never be wrong, the king cannot be wrong, right? So there's no elements to re-question or even think about asking about, you know, what the motives were behind this, or even the jury, you know, we cannot ask even in terms of what motivations were behind a jury's decision. It's interesting because when it's a trial in front of a judge, sometimes when the liberty interests of the individual aren't as huge as it is as they are when it's a jury trial, then the judge will need to motivate why they render a certain decision. So you know, these are some of the topics we might want to think about and eventually you know, reconsider in our system whether this kind of trend. Whether there should be a bit more transparency in the process.
The poor jury is coming out of this discussion a weakened and embattled institution. Who wants to speak in favor of maintaining the jury? We now give you an opportunity to join our discussions again. We have two mics, and it's important that you speak into the microphone so that our friends in the overflow rooms can hear us. But we now turn to you, defenders of the jury.
En fait, si tu me permets très rapidement, je présume qu'il y a des avocats de la défense ici. Un argument qui vaudrait la peine d'être soulevé, qui pourrait être intéressant, là. Devant un procès devant jury, c'est l'atteinte à une défense pleine et entière du fait qu'il y a moins de possibilités d'appel en raison justement de l'absence de motif. Vous savez, Shepard, Burns et compagnie prévoient quand même l'obligation de rendre des motifs et on a lié dans ces décisions de la Cour suprême l'obligation de rendre des motifs au droit de l'accusé d'avoir un appel effectif. Ben, écoutez, dans un cas de procès devant jury, manifestement, il n'y a pas de motif. Moi, j'attends juste qu'un avocat de la défense qui soit assez mal pris, disons, pour invoquer ce moyen en disant, écoutez, moi, je vais demander au juge de première instance qui préside le procès devant jury d'obliger le juré à rendre des motifs. Et s'il ne veut pas, ben, j'irai en appel en disant que j'avais droit à des motifs dans le cadre de ma défense pénitentiaire pour mon droit d'appel. J'en ai pas eu, donc je veux un nouveau procès. Ça vaudrait la peine, ne serait-ce que pour embêter la Cour d'appel.
Parce qu'on sait, après tout, des arrêts récents de la Cour suprême que les principes de justice fondamentale évoluent eux aussi, alors.
Oui. C'était très clair. Tout le monde a compris.
Oh, les plaidoiries ont été efficaces.
Oui, il y a l'appel du Muffin.
Professor Scott va faire la... In defense of the jury, Professor Scott?
No, you're trying to elicit that, but I have no intention of doing it. I would simply say that it's a long time since I followed criminal law closely, and I don't follow these cases in the media very closely, but I do have a certain impression. Obviously, there is the adversarial process, and defense counsel have to do their best for their client. And you get the impression that the criteria, nature and quality of the act, or knowing that it was wrong, are somewhat too severe, too narrow. So I get the impression sometimes when seeing media reports of these cases that counsel are doing their best to introduce evidence which isn't really probative as to the nature and quality act, and isn't really probative about whether the defendant knew that it was wrong, but just wants to create a general impression that the defendant is crazy and that the jury should be satisfied that this is a madman and should be acquitted really without regard to the McNaughton rules. Is this going on, and is it being effective, or am I wrong? Are the judges ruling out some of the psychiatric evidence as not probative to the conditions in the McNaughton rules, or is everything going in pretty much which defense counsel wants to put in?
Oui, alors c'est une excellente question. En fait, moi ce que j'ai remarqué, c'est que d'abord, quand il y a une décision en matière, quand il y a une cause en matière d'aliénation mentale, la partie la plus importante, c'est le diagnostic qui est fait par les différents psychiatres. Et les psychiatres vont se prononcer directement sur est-ce que l'individu était capable de juger de façon rationnelle et donc de faire un choix rationnel. Ils travaillent beaucoup avec ces notions de capacité de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais. Donc, nécessairement, l'avocat ou l'avocate qui est en charge du dossier va également bâtir son argumentation sur ces éléments-là. Donc, je pense pas que l'objectif, ce soit de présenter l'individu comme étant fou de façon générale, parce que tout le débat va jouer autour de cette question-là de la capacité de savoir que l'acte d'omission était mauvais. Prenez le cas de Luca Rocco Magnotta, c'est une évidence. C'est-à-dire que ce que le docteur Allard ou je me rappelle plus de l'autre psychiatre, Watts, ce qu'il disait essentiellement, c'est que l'individu était souffrait de schizophrénie et que, en raison de ses idées délirantes, en raison de ses hallucinations, il était incapable de juger de façon rationnelle et donc de faire un choix rationnel quant au caractère bon ou mauvais de son acte. Bref, qu'il était incapable de savoir que l'acte de l'omission était mauvais. De l'autre côté, on avait le docteur Chamberlain qui, sans avoir interrogé ou sans avoir... c'est pas un diagnostic qui l'a posé puisqu'il n'a pas rencontré directement l'individu. Donc, sur la base, je sais pas moi, de certaines observations qu'il a fait en dehors du procès ou sur la base des témoignages qui ont été rapportés dans le rapport des autres psychiatres, qui étaient des rapports quand même assez étoffés, là on parle de plus de 125 pages, mais lui ce qu'il disait essentiellement, c'est que nous sommes en présence non pas d'un état d'une personne qui souffre de schizophrénie, mais d'un individu qui manifestement souffre de différents troubles de la personnalité et qui a également d'autres traits qui sont associés à d'autres troubles de la personnalité. Donc, n'étant pas une personne psychotique, l'individu est capable de juger de façon rationnelle. Donc, ce sont des phrases, ce sont des expressions qui reviennent toujours. Donc, nécessairement, j'imagine, l'avocat ou l'avocate qui est en charge du dossier doit également se construire son argumentation sur ces éléments-là, parce que sans ça, personne ne va comprendre. Alors, à partir de ce moment-là, donc, il y a vraiment une collaboration au point de vue, en fait, de la fabrication du moyen de défense ou de sa construction qui est faite à partir des critères qui sont développés dans l'article 16. Au final, peut-être que le jury se dit, effectivement, est-ce qu'on est en présence d'un fou ou non? Peut-être que lui va pas dire est-ce qu'on est en présence d'une personne capable de juger de façon... C'est quoi juger de façon rationnelle? Pour le public, c'est être fou, là, de façon générale. Alors, à partir de ce moment-là, peut-être que le jury n'entre pas dans toutes ces petites... dans tous ces détails, mais il demeure que l'expertise des psychiatres s'est collée sur l'article 16 et l'argumentation des avocats et des avocates s'est collée sur l'article 16. Et c'est des concepts avec lesquels nécessairement ils doivent jouer.
Okay, I'm gonna ask the question or make my comments in English, having worked as a Crown prosecutor for close to 18 years. There is, you know, what brings into question is, in certain cases, is the problematic nature of jury members. For instance, I'll give you a little case that I was doing. It was a fraud case where it was quite clear, had we gone before a judge alone, this little Italian woman who seemingly looked like she couldn't hurt a fly would have been found guilty. The evidence was incredible, video evidence, a statement that she made to the enquêteur. She worked in the bank. She had access to all the files to defraud the estate that was defrauded. Bottom line, the jury members found her not guilty. And to say that they weren't impacted by looking at this little woman who just, they didn't want to find guilty, so they found their way, notwithstanding all the evidence that was there. And there was no really grounds for appeal because the judge gave proper directives. Now, in the Turcotte case, I remember talking about it to some of my friends who were just, of course, like everybody else, not understanding. But I said to them, imagine this case scenario. Now, I wasn't there to hear all the expert witnesses, but just at my understanding of human nature and having worked at the Crown, I said, here you have a doctor, you know, who... and all kinds of reasons and whatever evidence accumulated to show that he had lost, you know, we know he was jealous, and there were all kinds of other factors that led him into this state. The brutality of the crime was such, involving his own children, that who in their right mind would want to believe, I'm not saying that, you know, it doesn't work, but I'm just saying these are extreme cases where we really do have to question. I kind of knew myself what the outcome would be, having not done the case or been participating in it, because the brutality was so serious that most humans would not like to believe that somebody who wasn't crazy, and the legal definition of crazy, would have committed such a heinous crime. So we are, like, I think those are two extreme cases I'm giving, but that's a problem we have with jury cases, you know.
I'll be very short. My comment is simply this. Because there may be one or two jury verdicts that we don't like or that we disagree with or that we think perhaps are wrong, let us not be so quick to get rid of the jury. The jury has a very has played for a role in our system for many, many years and has functions that if we do away with the jury, we may regret one day. And I remind you of the Morgenthaler cases. It's our juries in acquitting Morgenthaler that finally brought the law to where it should be in Canada. And judges make lots of mistakes. And when we talk, that's not too easily... talk about 12 people who don't understand the technical evidence well enough. I just wonder how well all judges understand technical evidence before them. I know judges have to write reasons for their decisions, but there are a lot of judgments that go by. If you want to go by the number of judgments that may be erroneous, I don't think we do any better with judges than we do with juries. So let's just not be too quick to shout the jury system. That's all.
Ouais, mais ce que je dis, c'est que c'est pas d'abandonner le procès par jury. Je dis tout simplement que la question des troubles mentaux devrait être jugée dans un débat qui n'est pas contradictoire. C'est-à-dire que le juge devrait demander, devrait nommer des spécialistes, en fait. De façon objective, qui pourrait intervenir et se prononcer dans un cadre qui est sorti du contradictoire, juste sur la question des troubles mentaux d'un individu. Mais par rapport à un procès en droit criminel, je pense que c'est quand même assez évident qu'on doit garder le jury. Là. Il n'y a pas, je vois pas comment qu'on pourrait abandonner l'institution du jury à ce niveau-là. Mais je pense qu'on pourrait le faire différemment par rapport à la question de l'aliénation mentale. Comment qu'on devrait le faire, ça, je ne sais pas encore, mais il y a des questions qu'on pourrait se poser là-dessus. C'est sûr et certain que là, ça devient extrêmement, extrêmement complexe, cette question-là. Et il demeure que ça, c'est un point de vue qui est intéressant.
Alors, avant qu'on aille à la pause, je voudrais juste souligner que les parents vont devoir nous quitter, malheureusement. Alors, mais je vous invite
juste pour revenir. Parce que des fois, il y a quand même, effectivement, comme vous dites, une distinction entre le droit et toute la question, en fait, du jugement par un jury. Parce que prenez juste le cas de Guy Turcotte. Si on arrive à la conclusion que Guy Turcotte, si le jury arrive à la conclusion que Guy Turcotte n'est pas aliéné, à partir de ce moment-là, la question qui demeure, c'est laquelle? C'est est-ce que Guy Turcotte avait l'intention de tuer ses enfants pour savoir est-ce qu'il va être coupable de meurtre ou non? Alors, à partir de ce moment-là, comment un jury peut arriver à la conclusion que Guy Turcotte n'avait pas l'intention de tuer ses enfants lorsqu'il dit lui-même que son intention, c'était d'amener ses enfants avec lui? À partir du moment où le jury arrive à la conclusion que Guy Turcotte n'est pas aliéné, nécessairement, le jury arrive à la conclusion que Guy Turcotte savait ce qu'il faisait, il savait qu'il avait un couteau dans les mains et il savait qu'il donnait des coups de couteau à ses enfants et qu'il était en mesure d'évaluer, de comprendre les conséquences matérielles. Donc, il savait qu'en donnant des coups de couteau à ses enfants, qui allait les tuer. Donc, automatiquement, tu arrives avec la conclusion qu'il avait l'intention de tuer ses enfants. Et ça, c'est intéressant. J'ai déjà vu un cas en droit criminel où, effectivement, il y a eu un procès devant le jury. La dame avait admis qu'elle avait poignardé l'individu. Quand ils sont venus chercher le corps, il y avait le couteau encore dans le thorax. Et le jury est arrivé à la conclusion qu'elle n'avait pas l'intention de tuer l'individu. Donc, par quel moyen, comme vous avez dit tantôt, on est arrivé à la conclusion qu'elle n'avait pas l'intention et... Est-ce qu'il y a une distinction entre une intention apparente et une intention en droit criminel? S'il en existe une, je ne la connais pas. Mais il demeure qu'effectivement, je pense que un jury, c'est une institution qui est essentielle au droit criminel. Mais moi, ce que je dis essentiellement, c'est que la question de la défense d'aliénation mentale, elle devient effectivement de plus en plus complexe. Et lorsque des psychiatres ne sont même pas capables de s'entendre sur des éléments... sur la manière de qualifier l'état mental de l'individu, ça commence vraiment, vraiment à être complexe. Il faudrait quand même s'interroger sur la manière de traiter cette question-là de façon plus spécifique.
Oui. Merci beaucoup, Hugues, puis merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors, au retour de la pause, Simon Roy avec des observations de Marie Manikis. On se revoit dans une quinzaine de minutes.
C'est sûr que Hugues a triché. Hein? À partir du moment qu'il parle de Turcotte, c'est fini.
Ah, ouais.
Bonjour. Bonjour. Écoutez, je vais faire comme avec mes étudiants qui, au moment de retourner de la pause, font à peu près tout sauf m'écouter. Donc, Maître Bachand m'a donné la permission de mettre fin à votre pause. J'espère que vous m'en voudrez pas. Contrairement à ce qui avait été annoncé, je vous offre un programme un peu plus riche que prévu. Donc, on a annoncé tout à l'heure la responsabilité des corporations pour des crimes économiques. Comme vous voyez avec le titre, j'ai décidé d'élargir un peu et de m'intéresser à la responsabilité des compagnies tout court. Et je l'ai intitulé, évidemment, de MMA, donc le déraillement à Lac-Mégantic, à SNC-Lavalin. Les gens qui ont vous avez sûrement vu récemment qu'SNC-Lavalin a fait l'objet d'accusations de fraude et de corruption. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi il va nous parler de deux cas qui sont encore devant les tribunaux? Effectivement, dans ni un ni l'autre, il y a des décisions. En fait, dans ni un ni l'autre, il y a même des procès jusqu'à présent. Mais à mon avis, ce sont deux cas qui illustrent bien vers où on s'en va. En fait, j'ai choisi de vous parler de ça parce que les organisateurs nous ont dit que l'idée de la rencontre, c'était de parler un peu de l'orientation, la loi et l'ordre, de l'orientation aussi de droit des victimes. Donc, comment s'inscrit la responsabilité des compagnies dans cette optique, dans cette mouvance du droit criminel? Ben, moi, je le vois surtout par le biais de la pression du public. Je pense que dans ces deux cas-là, il y a une pression du public importante. Je m'explique. Dans le cas de MMA, ben, évidemment, suite à ce qui est arrivé à Lac-Mégantic, on cherchait des coupables. Il y a 47 personnes qui sont mortes. Il faut, aux yeux du public, qu'il y ait quelqu'un, en quelque part, qui ait mal agi, là. C'est très difficile pour l'être humain d'accepter les accidents, d'accepter la fatalité. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un, quelque part, qui ait mal agi, parce que sinon, ça amène l'idée que nous sommes presque tous à risque d'un événement comme ça. Si l'événement, c'est la faute de personne, ben c'est un événement qui peut se reproduire à Montréal, à Sherbrooke, à Québec. Donc, on a besoin de trouver un responsable, ne serait-ce que pour se convaincre que ça peut être évité. Donc, je pense que dans Lac-Mégantic, l'idée de pression publique est importante. Je veux pas dire que le procès a aucune chance de réussite, mais quand on regarde ça, là, le procureur de la Couronne, qui déjà, comme premier acte significatif, passe par-dessus l'enquête préliminaire, parce que, bon, je ne sais pas si vous avez lu les journaux, mais il n'y aura pas d'enquête préliminaire dans ce dossier. Ça démontre une volonté, peut-être, je ne dirais pas de court-circuiter la justice, mais ça démontre une volonté d'arriver à des résultats rapides qui ne sont pas nécessairement compatibles avec une justice idéale. Donc, Lac-Mégantic, beaucoup de pression du public, à mon avis. Et SNC-Lavalin, ben écoutez, vous avez tous vu, comme plusieurs, la commission Charbonneau. Ce qui est bizarre, c'est que les accusations contre SNC-Lavalin ont relativement peu à voir avec la commission Charbonneau, parce que ce sont des gestes qui se sont produits lors de dossiers en Libye, okay, et non au Québec. Par ailleurs, écoutez, après tout ce qui s'est dit à la commission Charbonneau, ben les gens ont envie qu'il y ait des accusations contre ces compagnies de génie conseil, contre ces bureaux d'avocats aussi dans certains cas, qui ont magouillé des appels d'offres, qui ont triché, qui ont fait des choses totalement inacceptables pour aller chercher de l'argent. Donc, la Couronne, encore une fois, vient répondre à une pression du public, et c'est pas nécessairement une mauvaise chose, là. La Couronne peut pas être complètement imperméable à la pression du public, ça doit pas être le principal facteur, manifestement. Mais la Couronne peut pas oublier non plus qu'il y a le public qui demande certaines réponses, et si le dossier justifie les accusations, ben, c'est un élément additionnel. Donc, la responsabilité criminelle des compagnies, je la vois un peu dans cette optique. Il y a, à mon avis, depuis quelques années, une pression publique, une pression politique pour que les sociétés de personnes, pour que les OSBL, pour que les compagnies, manifestement, par action, paient un peu pour leurs gestes. Donc, comment on regarde ça? Comment on ajuste ça? Ben, évidemment, on regarde ce qui s'est fait avant. Jusqu'au début des années 2000, c'était plutôt rare. C'était la Red Dredge qui réglementait un peu cette partie du droit criminel. Et honnêtement, moi, ça a été une des plus belles nouvelles dans ma carrière de professeur. Quand les articles 22.1 et 22.2 du Code criminel sont rentrés en vigueur, j'ai finalement pu domper la Red Dredge de mon recueil parce que je devais l'expliquer aux étudiants et je le comprenais pas. Bien honnête avec vous, là. J'essayais de comprendre les faits de cette affaire, je le comprenais pas du tout. Juste pour vous donner une idée, là, Dredge, c'est une affaire où quelqu'un qui voulait racheter une compagnie a commis une fraude en utilisant l'argent des actionnaires qui étaient déjà là pour comme refinancer l'achat. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Mais c'était très, très, très difficile à comprendre parce que ça demandait des notions de droit corporatif assez avancées. Vous savez, en droit criminel, dès qu'on voit un chiffre, on a peur, là. Donc, c'était très difficile. Et tout ça, ça a été remplacé par 22.1, 22.2 du Code criminel qu'on verra tantôt, suite, évidemment, à l'affaire de la mine Westray. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est quelque chose qui s'est passé dans les Maritimes. Il y a une mine qui a explosé. Il y a eu un peu la même chose que les mineurs chiliens, mais ceux-là sont pas sortis. Donc, il y a eu une vingtaine de décès de mémoire. Et c'était très clair dans les jours qui avaient précédé l'explosion, même dans les mois qui avaient précédé l'explosion, que cette mine était manifestement très dangereuse, très mal entretenue. Il y avait eu des commentaires du syndicat qui disaient « Écoutez, c'est une question de temps avant que ça explose. » Et malheureusement, il s'est avéré que ces commentaires étaient prophétiques, donc ça a explosé. Et là, Westray a été accusé, les gens qui étaient à la tête de la mine ont été accusés aussi, mais ça s'est terminé dans un fiasco sans aucune condamnation, et ça a mené une réflexion qui a mené justement à 22.1, 22.2. Et là, il y a eu un genre de gel, en fait, des procureurs de la Couronne, qui ne comprenaient pas 22.1, 22.2, je pense. Et pendant de nombreuses années, il n'y a plus d'accusation vers tout ça. Exactement le contraire de ce qu'on voulait, en fait. Et écoutez, ce sont des articles qui sont entrés en fonction, en vigueur en 2004. Et pour le moment, on ne recense qu'une seule décision au Canada qui a appliqué l'article 22.2. C'est l'affaire Pétrole Global qui a eu lieu à Sherbrooke et dont le juge est un de mes anciens collègues. Je suis allé le voir, je lui ai dit merci, enfin, je vais pouvoir analyser de la jurisprudence. Il n'y en avait pas. Mais écoutez, en 10 ans, il y a une seule décision rendue sur la responsabilité des organisations au Canada. Peut-être parce que les procureurs de la Couronne n'ont pas pris d'accusation. Mais probablement aussi, ce qui explique ça, c'est que la responsabilité des organisations, c'est très facile d'y échapper, en fait. En fait, la compagnie n'a qu'à faire faillite. Et dans bien des cas, qu'on pense à Norbourg, par exemple, parce qu'il aurait pu avoir des accusations contre Norbourg. Mais écoutez, à partir du moment où Norbourg fait faillite, on peut pas poursuivre une compagnie qui est défunte. Donc, c'est peut-être ça qui explique le silence du début des années 2000. Mais là, depuis quelques années, c'est l'euphorie. Je vous ai mis quelques cas. Ben, évidemment, MMA, hein, on en a parlé un petit peu avec le déraillement de Lac-Mégantic. Mais aussi SNC-Lavalin avec la Libye. Bon, qu'est-ce qui est arrivé là-dedans? Écoutez, vous connaissez tous SNC-Lavalin, firme de génie conseil. Ils ont des projets en Libye. Ce sont des projets pour des centaines et des centaines de millions de dollars. Et eux décident que la meilleure façon d'avoir le projet, ben, c'est évidemment un tout petit peu de corruption. Et Kadhafi est au pouvoir à l'époque, donc ils réussissent par un genre de stratagème qui implique d'autres compagnies et qui implique quelqu'un qui, une personne physique qui est pas nécessairement reliée à Lavalin. Ils trouvent un moyen, finalement, de transférer des fonds qui se ramassent dans les poches d'un membre de la famille de Kadhafi, je pense que c'est son fils. Et là, on parle de centaines de millions de dollars sur plusieurs années. En fait, il y aurait eu des malversations entre 2001 et 2010, là, 2010-2011. Donc, on parle d'une période assez longue. Donc, ils sont poursuivis pour corruption, manifestement. Et ils sont poursuivis aussi pour fraude. Parce que dans la mesure où c'est un stratagème malhonnête, ce qui est manifestement le cas, ben ça constitue une fraude, donc la Libye pourrait théoriquement être victime de tout ça. Et moi, quand j'ai entendu ça, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que le droit criminel canadien s'applique? Parce que manifestement, la Libye, c'est pas une victime au sens du droit canadien, là. Donc, il va falloir trouver un facteur de rattachement avec le territoire canadien, soit par le biais du complot, hein, s'il y a des accusations de complot, soit en démontrant que quelqu'un, quelque part, à Montréal, en tout cas sur le territoire canadien, qui a participé à cet événement. Parce que vous savez, je dis toujours à mes étudiants, si vous voulez commettre un crime et ne pas être condamné au Canada, c'est simple, allez le faire aux États-Unis. Bon, le problème, c'est que vous êtes condamné aux États-Unis, mais est-ce que le droit canadien s'applique à ce qui est arrivé à SNC-Lavalin? C'est, à mon avis, la première question. Irving et autres, j'ai évidemment mis « et autres » parce que là, c'est rendu autour de Irving, mais il y a eu Couche-Tard avant, il y en a eu d'autres, Pétrole Global. Donc, le cartel de l'essence, qu'est-ce que c'est le cartel de l'essence? Ben, c'est la version essence de tout ce qui est arrivé dans le domaine de la concurrence depuis plusieurs années. On a parlé de la commission Charbonneau. Sachez qu'avant, il y a eu aussi l'histoire sur les anovulants. Je ne sais pas si vous savez, mesdames, ou messieurs, peut-être dans de très rares cas, là, le prix des anovulants avait été fixé indûment par plusieurs pharmacies. Jean Coutu s'est fait prendre là-dedans Pharmaprix, de mémoire Uniprix. Les pharmacies s'entendaient entre eux pour fixer de façon artificiellement élevée le prix des anovulants. Le bureau de la concurrence les a poursuivis, je pense que c'était aux environs des années 90, ils ont payé parce qu'ils ont admis que c'était le cas. Ben ça, c'est le même stratagème, mais version essence. Et juste pour la petite histoire, ce qui est comique à Sherbrooke, c'est que même après que l'histoire du cartel de l'essence ait explosé et qu'on a su finalement qu'à Sherbrooke, il y avait un complot pour fixer le prix depuis longtemps, on paie encore plus cher que partout ailleurs dans la province. Okay? Faut croire finalement que le crime paie. Mais il y a toutes sortes de pétrolières qui sont impliquées là-dedans. Je parlais de pétrole global qui est plus petit, donc qui a été parmi les premiers à passer. Il y a Irving maintenant qui est devant la cour. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des enregistrements électroniques dans ce dossier, ou de l'écoute électronique dans ce dossier, tellement volumineuse que la couronne estime à 40 ans la durée du travail pour ne serait-ce que retranscrire l'écoute électronique. Okay. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur du dossier. Et c'est un peu ça aussi, la responsabilité criminelle des compagnies. Ce sont toujours des dossiers immenses, parce qu'une multinationale comme Irving, là, ça prend pas une décision sur le coin de la table et cherchez pas un conseil d'administration où à l'ordre du jour, il y a fixation des prix, là. Ça ne marchera pas de même. Donc, des dossiers immenses. Simard Baudry, Tony Accurso, Louis Beau Construction. Écoutez, il y a quelques années, ça avait fait les manchettes. Pourquoi? Parce que on alléguait un certain, peut-être, traitement de faveur à l'égard de Tony Accurso. Je pense qu'aujourd'hui, on peut mettre de côté l'idée que Tony Accurso a bénéficié d'un traitement de faveur. Je pense que c'est rendu l'inverse. Mais à une certaine époque, on parle des années 2009, 2010, 2011, Simard Baudry, Louis Beau Construction s'était fait prendre pour avoir fait des fausses factures. Okay? Donc, il y avait des fausses factures qui étaient utilisées auprès du fisc pour déduire, évidemment, pour réduire le profit qui était tiré des activités. Et les fausses factures étaient émises par des compagnies bidons qui, par la suite, faisaient faillite, donc qui, elles, payaient pas leur part d'impôt. Et pour toutes sortes de raisons, Louis Beau Construction et Simard Baudry avaient reçu comme accusation des accusations en vertu des lois de l'impôt et non en vertu du code criminel, même si c'était manifestement fabrication de faux, même si c'était manifestement fraude. Revenu Québec, Revenu Canada avaient décidé de passer par les lois de nature fiscale pour les condamner. Et à l'époque, ça avait été vu comme un traitement de faveur vraiment inexplicable. Je vous dirais qu'avec le recul, c'était peut-être la meilleure idée. Parce qu'on verra, ce qu'on veut pour les corporations, c'est pas les mettre en prison. C'est impossible de les mettre en prison, là. Même si Harper voulait, même si mon ami le sénateur Boisvenu, qui vient de ma patrie, le voulait, on peut pas construire un pénitencier autour de Simard Baudry, là, ça marchera pas. Là. Donc, la seule peine, c'est une peine monétaire. Et dans ce contexte, les lois de nature pénale, qui comportent moins de protection constitutionnelle, peuvent être peut-être la voie pour aller chercher le plus d'argent le plus rapidement possible. Mais bon, Simard Baudry a évidemment aussi fait l'objet de beaucoup de publicité à une époque parce que, justement, il n'était pas nécessairement un bon citoyen corporatif. Est-ce que c'est typique au Canada? Est-ce que c'est un phénomène nouveau? Ben, manifestement, non. Je vous donne quelques noms ici que vous connaissez, soit parce que c'était pas au Canada, soit parce que c'est pas nouveau. Norbourg, ben écoutez, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler. Le grand-père de Norbourg, ou l'ancêtre de Norbourg, évidemment, Enron, aux États-Unis, écoutez, ça a été une catastrophe économique, Enron. Et je vous ai mis Enron ici, mais on pourrait mettre la version canadienne de Enron, qui est Nortel. Hein. Il manque un peu de lettres pour faire l'acronyme, mais on a à peu près le même stratagème. Et écoutez, Nortel, moi je me rappelle encore, dans le fond, ce qu'on dit dans les états financiers de Nortel, c'est qu'on utilisait une comptabilité qui n'était pas reconnue par les principes comptables généralement reconnus. Et on a dit, ben écoutez, c'est pas une fraude, on avait averti les gens qu'on utilisait une comptabilité qui n'était pas reconnue. Mais bon, donc Nortel, Ford Pinto, pour les gens qui ont un peu plus d'expérience ici, Moi, quand j'en parle à mes étudiants, ils n'ont aucune idée de ce que c'est, là. Ford Pinto, c'était l'auto qui ressemblait à un aquarium en avant, là. Donc, la vitre bombée, et c'était une auto parfaite à tout point de vue, sauf un petit détail, elle explosait quand il y avait une collision à l'arrière. Okay, mais tout le reste était très, très bon, là. Donc, Ford le savait, ou en tout cas, il y a des indices qui démontrent que Ford le savait, et Ford s'est simplement dit, ben, ça coûte trop cher de faire le rappel, puis de toute façon, c'est des clients qui achètent des chars cheap, c'est pas ceux qu'on veut. Si c'était Lincoln, peut-être qu'on rappellerait, là, mais Ford Pinto, de toute façon, on oublie ça. Donc, Ford a décidé, de façon très, très benthamienne, si on veut, de calculer les éléments pour, de calculer les éléments contre, et de dire, ben, regardez, 27 morts versus 10, 15, 20, 30 millions de profits, il n'y a rien là. Donc, n'avait pas fait le rappel sur Pinto. C'était dans les années 60, 70 de mémoire. Firestone, écoutez, c'est encore Ford, là, vous allez dire que j'ai une dent contre Ford, mais c'est plus le hasard. Firestone, c'est un peu le même principe, c'était un très bon pneu qui avait le simple petit défaut d'exploser quand on dépassait 100 quelques kilomètres heure, ce qui entraînait évidemment une perte de contrôle. Firestone le savait, mais n'a pas réagi. Dans les cas les plus récents, HSBC, hein, vous avez vu, c'est sorti il y a quelques semaines, HSBC, qui est une banque qu'on voit un peu au Canada, mais surtout en Europe, a participé assez allègrement à des stratagèmes d'évasion fiscale avec la Suisse, entre autres. Les Français les poursuivent allègrement présentement. Et Westray, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'il y a des infractions plus de nature de négligence, hein, c'est le cas avec Ford, avec Firestone et avec Westray. Et il y a des infractions plus de nature intentionnelle ou d'acceptation, finalement, d'un certain comportement, Norbourg, Enron et HSBC. Donc, le législateur devait vraiment viser deux types de comportements. Le comportement intentionnel, la corporation qui prenait le choix et qui voulait tirer un bénéfice illégal, et aussi la corporation qui était plus audacieuse, disons, dans ses décisions et qui prenait pas de bonnes mesures de protection de ses clients. Donc, il y avait ces deux possibilités à surveiller. Donc, le législateur répond à ça. Et écoutez, quand je donne mon cours aux étudiants en droit pénal, le premier article que je leur fais lire, c'est 22.1a. Et je dis en classe, ben écoutez, savez-vous quoi? Moi, je veux que vous lisiez 22.1AI. Là, ils vont voir dans leur code, ils disent 22.1AI n'existe pas, manifestement. Moi, je leur ai dit, oui, il existe. Regardez la version anglaise. La version anglaise du code criminel, croyez-le ou non, contient un 22.1AI et même un 2I. Mais en français, finalement, on a jugé qu'on n'avait pas besoin de ça. OK? Et je leur dis toujours, écoutez, vous avez fait des cours de droit civil, on vous a dit que le législateur était cohérent, qu'il était logique, qu'il ne parlait pas pour rien. Ça vaut pour le législateur provincial. Maintenant, nous sommes en droit fédéral. Okay? C'est un pays de common law. Et on dirait que le législateur fait exprès pour bâcler la législation, hein? Comme ça, il n'y a pas trop d'envie de légiférer. Et le deuxième article que je leur fais lire, je sors un peu, mais quand même. Le deuxième article que je leur fais lire, c'est l'article sur la cruauté contre les animaux. Et vous savez, vous regarderez, je pense que c'est 445.1 de mémoire. On dit, comme une infraction quiconque inflige une douleur ou une souffrance à un animal ou un oiseau. Et moi, je leur dis, écoutez, je fais un deal avec vous. Je vous donne A+. Si vous êtes capable de me répondre à cette question, trouvez-moi un oiseau qui n'est pas un animal. Non, mais il y en a un, parce que le législateur a choisi de trouver les deux termes, là. Donc, il y en a sûrement un. Et, dans le fond, il n'en trouve pas. Là, ça passe 6 heures de cours, hein? On revient 3 semaines après. Mais c'est ça, c'est du droit criminel. Je pense qu'il faut s'ajuster un peu à ça. Donc, revenons à nos moutons, contre qui nous ne sommes pas cruels. 22.1. Première réponse du législateur qui vise les crimes de négligence. Et là, je vous laisse la liste. Ben, je vous lis rapidement, s'agissant d'une infraction de négligence. L'organisation est considérée comme ayant participé lorsque... Et là, c'est très intelligent de la façon que c'est fait. C'est A, l'actus reus, B, la mens rea. Donc, A, d'une part, l'un de ses agents et l'envisageant au sens large, ça peut même inclure les mandataires de l'organisation. Un avocat, par exemple, qui travaille pour une compagnie et qui n'est pas employé de la compagnie, là, qui travaille à mandat pour une compagnie, à mon avis, serait visé par la définition d'agent qu'on retrouve à l'article 2. Mais on dit, bon, des agents qui, par leurs actions ou missions individuelles, ça, je pense que c'est très important, ou collectives, font en sorte de participer à l'infraction. On ne dit pas commettre l'infraction, hein. On dit participer, ce qui inclurait la complicité. Donc, si on prend l'exemple de MMA, même si on conclut qu'individuellement, il n'y a personne qui a fait quelque chose de pas correct, donc que le conducteur, finalement, c'était pas si dramatique que ça qu'il a fait, ce qu'il a fait, que le répartiteur, finalement, c'était pas si dramatique que ça qu'il a fait, ce qu'il a fait, que les pompiers de Nantes, ou pire aller, ce qu'ils ont fait, c'était pas si grave que ça, peut-être que collectivement, quand on additionne tout ça, ça fait une faute pénale. Donc ça, c'est un élément intéressant, parce que ce qu'on trouvait souvent dans la responsabilité des compagnies, c'est une multitude de petits gestes qui, en soi, n'étaient pas dramatiques, mais quand on les additionnait, on arrivait à l'infraction. Donc, A permet d'additionner. B crée quelque chose qui va à l'encontre même des fondements du droit criminel, c'est l'obligation de stopper une infraction. Donc, on voit que le cadre supérieur ou les cadres supérieurs doivent, là je m'éloigne, là, doivent trouver une façon pour empêcher la participation de l'infraction. On vous a probablement tous enseigné Dunlop contre Sylvester, ou vous avez lu Dunlop et Sylvester, on vous dit la passivité devant le crime, c'est pas un crime, on n'est pas obligé d'intervenir. Ben, ça, je dis à mes étudiants, oui, sauf si vous êtes un cadre supérieur. Si vous êtes un cadre supérieur et vous voyez que vos agents font des choses qui sont dangereuses et que vous n'intervenez pas, tant pis. Tant pis. La compagnie est coupable. Vous, vous ne le serez pas. Mais la compagnie, elle l'est. Donc, une obligation d'intervention a priori, hein, pas a posteriori, mais avant le crime. Donc, vraiment rare en droit canadien, 22.1b. Même article en anglais. Et là, ça m'amène à MMA, 47 chefs d'accusation d'homicide. Ici, il y a 47 morts. Dans le fond, c'est un geste, là. Mais il y a 47 victimes, donc 47 chefs d'accusation. Quelle sera la preuve nécessaire dans ce dossier? Ben, à mon avis, il va falloir prouver que l'ensemble des employés d'MMA impliqués, c'est-à-dire le répartiteur, c'est-à-dire le conducteur de train, c'est-à-dire la troisième personne qui est impliquée, dont j'oublie le rôle, là, ont une conduite qui, une fois prise ensemble, a fait en sorte de s'écarter de façon marquée de la norme de la personne raisonnable dans les circonstances. Et à mon avis, ça va être utile aussi de démontrer que la compagnie, d'une certaine façon, sans endosser nécessairement cette conduite, qu'une compagnie raisonnable aurait vu le risque. Okay? Donc, il n'est pas nécessaire que M. Brookhard, là, la célèbre CEO si gentil de la MMA qui passe si bien dans les médias, ait perçu le risque. Mais on va se poser la question, est-ce qu'un CEO raisonnable aurait vu ça? Et là, évidemment, toutes les politiques de la MMA qui visaient à couper les coûts et à faire le plus de profit possible avec trois broches, finalement, à peine ficelle, là, ben, c'est un peu ça qui va rentrer en jeu. Les employés devront-ils obligatoirement être trouvés coupables? Manifestement, non. Il y a un scénario, et c'est le scénario, à mon avis, qui est le plus plausible, où tous les employés s'en tirent, mais que la compagnie est trouvée coupable. Pourquoi? Parce que comme employé, vous ne pouvez être tenu que de vos gestes. Il n'y a pas de responsabilité du fait d'autrui, là. Oui, il faut que vos gestes soient considérés dans l'ensemble. Mais quand même, si on dit que dans le fond, ce qui a causé le problème, c'est ce que le répartiteur a fait, plus ce que le chauffeur de train a fait, bien, vous comprenez que les deux individuellement n'ont pas de problème. Mais la compagnie, elle, collectivement, pourra avoir un problème. Donc, il n'est pas nécessaire que les employés soient trouvés coupables. Et écoutez, on parlait tout à l'heure de procès devant jury, là. Pensez-vous sérieusement que le procès va avoir lieu à Lac-Mégantic? Non, mais tu sais, ils ont même plus de palais de justice parce que le palais de justice a explosé à cause de ça, là. Ils vont faire le procès dans le centre communautaire. Donc, manifestement, à mon avis, il va y avoir changement de venue. Mais là, on fait ça où, là? Est-ce qu'on ramène ça à Montréal, qui est peut-être le plus gros district, ou est-ce qu'on ramène ça à Sherbrooke, qui est la plus grande ville dans le district où Mégantic est? Ça va être un enjeu, là. Mais bon, on verra. Rôle de la pression médiatique et politique, ben écoutez, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein. Il y a quand même des attentes à l'Acné Quantique suite à ce qui est arrivé. Et imaginez si on dit tout le monde est innocent là-dedans, il n'y a pas de coupable. J'ai hâte de voir un peu la réaction. Mais le plus intéressant pour moi, c'est à quoi ça va servir, ça? Est-ce que c'est une condamnation symbolique? Vous savez que MMA a été racheté par une compagnie qui est américaine aussi de mémoire. Donc, comment on fait s'il y a une condamnation? C'est une condamnation qui va manifestement être monétaire, là. Il n'y a pas d'autre possibilité. Mais comment on fait pour exécuter cette condamnation? Et est-ce que la nouvelle compagnie est tenue des dettes résultant d'une condamnation de la compagnie qu'elle a achetée? Et là, vous voyez la différence entre acheter les actifs et acheter les actions. On vous dit tout le temps dans vos cours de droit des corporations que, bon, il y a une différence au plan fiscal. Moi, je vous dirais qu'il y a peut-être toute une différence au plan criminel, là. Si on a racheté les actions et absorbé la compagnie, ben moi, je vois pas pourquoi on n'absorberait pas aussi son passif. Si au contraire, on a acheté seulement les actifs sans absorber l'autre compagnie, là, ça devient différent. Mais abstraction faite de ça, il va falloir exécuter le jugement ailleurs qu'au Canada, ce qui, ça aussi, peut poser problème. Donc, MMA, vous voyez, on n'est pas sorti du bois, même en cas de condamnation. 22.2, la réponse du législateur pour les crimes intentionnels, donc les fameuses fraudes. Ici, on ajoute quelque chose qui n'était pas là au début pour 22.1, c'est qu'il doit y avoir l'intention, même partielle, de faire tirer parti du crime à la compagnie. C'est normal, là. Pour le crime de négligence, on ne peut pas avoir l'intention d'en faire tirer parti de la compagnie. C'est un crime de négligence. Il n'y a pas d'intention ultérieure là-dessus. Il n'y a pas d'intention spécifique. Mais on voit ici encore une possibilité qui, à mon avis, est fort intéressante et nouvelle, c'est C. Sachant qu'un agent participe à l'infraction, et encore une fois, c'est à titre de complice ou d'auteur réel, ou est sur le point de le faire, le cadre supérieur omet de prendre les mesures voulues pour l'en empêcher. On vient de transférer ou de transformer les cadres supérieurs en justiciers masqués. Ce sont eux qui ont l'obligation de stopper le crime. Et s'ils ne stoppent pas le crime, la compagnie peut payer. Imaginez, par exemple, que vous êtes, disons, je ne sais pas moi, le conducteur d'une compagnie de camionnage et vous roulez systématiquement beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite, vous mettez en danger la vie des gens. Et là, vous avez votre gestionnaire qui sait ça, qui est au courant de ça, et qui vous voit vraiment dire de façon parfaitement intentionnelle, ben moi, je conduis de façon dangereuse, c'est pas grave, j'arrive plus vite. Okay? Je comprends que théoriquement, c'est pas un crime de 22.2. Mais dans ce contexte, est-ce qu'on pourrait pas dire que le gestionnaire qui accepte que ses camionneurs roulent beaucoup plus vite parce qu'ils sont plus rentables ou qu'ils roulent sur des périodes plus longues? Parce que pour un camionneur, c'est plus payant de rouler 22 heures que d'en rouler 16. Est-ce qu'il n'y a pas une acceptation de responsabilité criminelle? La question se pose certainement. Si on compare ça avec ce qui arrive avec SNC-Lavalin, bon, fraude, corruption, activité en Libye, on en a parlé, ça pourrait être problématique par rapport au Canada. Quelle sera la preuve nécessaire? Ben là, à mon avis, c'est différent. Autant pour MMA, il y avait une possibilité de condamnation sans que l'employé soit condamné. Autant pour SNC-Lavalin que je ne la vois pas, cette possibilité. Parce que pour les infractions de mens rea subjective, il faut que le cadre ait pris quand même un rôle beaucoup plus important dans l'infraction. Il faut que le cadre soit au courant de ce qui se passe et n'intervienne pas ou facilite la participation de l'infraction. Et là, moi, j'ai beaucoup de difficultés à voir un cas où le cadre, physiquement, comme personne physique, ne sera pas puni, alors que la compagnie le serait. Et là, ça amène tout le débat de la double punition, hein. Parce que SNC-Lavalin, là, oui, les cadres sont pas contents, mais j'ai peut-être des actionnaires de SNC-Lavalin ici, là. Vous avez tous payé, là. L'action a chuté de 7% le jour où des accusations ont été déposées. 7%. Même si au bout de la ligne, SNC-Lavalin est acquitté, 7% de la valeur perdue en une journée. Okay? Donc, il y a manifestement ici certaines conséquences. Et oui, le cadre risque d'être puni, mais les actionnaires aussi se trouvent indirectement à être punis. Et là, ça nous amène à cette idée-là. Est-ce qu'on doit punir seulement la personne physique qui a commis le crime? Ou est-ce que punir la corporation, ça devient intéressant, tout en sachant qu'on punit par ricochet, par exemple, les actionnaires qui n'ont rien à voir avec ça? Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est the cost of doing business. Quand j'ai investi dans une corporation et que je fais de l'argent quand elle triche, ben c'est normal que j'en perde quand elle se fait prendre. Ben ça va bien si c'est un vieil actionnaire qui a profité de la plus-value au fil des ans. Mais l'actionnaire qui a acheté en 2013 et qui voit que ça sort, là, lui, il est pas content. Là, parce que lui, il a pas profité des bonnes années. Fait que c'est vrai qu'il faut pas que le crime paie. C'est le vieil adage, le crime ne paie pas. Mais moi, si j'étais pas là quand le crime payait, pourquoi je serais celui qui paye au bout de la ligne? C'est une question, à mon avis, qui se pose. Et ce qu'on a invoqué pour justifier les accusations contre SNC-Lavalin, c'est l'image du Canada à l'étranger. Ben, écoutez, ça fait peut-être juste une vingtaine d'années que je fais du droit criminel, là, mais c'est assez rare que l'image du Canada à l'étranger puisse constituer un facteur pour déposer des accusations. Là. On n'est pas en marketing ici, là. Ça ne marche pas, là. C'est pas un trademark. Là. Donc, pourquoi SNC-Lavalin aurait à payer? Parce que le procureur de la Couronne veut s'assurer qu'il y ait une bonne image du Canada à l'étranger. Là. Puis on parle quand même de la Libye. Là. Enfin, je veux dire, c'était peut-être the way to do business à ce moment-là. Là. Moi, je me rappelle, j'étais en Côte d'Ivoire il y a pas si longtemps que ça, et j'attends la douane, et là, il y a quelqu'un qui passe avant moi et qui donne la main au douanier et qui manifestement lui remet de l'argent au moment où il donne la main. Et il passe comme une lettre à la poste, là. Ben, une lettre à la poste, c'est moins vrai aujourd'hui, là. Mais en tout cas, il passe. Et là, moi, je suis là après. Et je me dis, ben, j'ai deux choix. Soit commettre une infraction, qui est vraiment de corrompre un agent frontalier, soit de mériter peut-être une fouille annuée. J'hésite beaucoup entre les deux. Évidemment, j'ai décidé de pas le corrompre parce que ma conscience de respecter le droit est plus importante, ça a l'air, que mon intégrité physique. Et j'ai quand même passé 15 minutes à la douane à répondre à toutes sortes de questions, là. Et je me suis dit, après, j'aurais dû y donner le 200 francs CFA qui valait quelque chose comme 4 piastres ici, et j'aurais sauvé le 15 minutes. Mais j'en suis venu à comprendre, pour en discuter avec des Ivoiriens, que c'était pas une pratique courante, mais c'était une pratique qui était généralement acceptée. Et ce que j'avais pas remarqué, c'est que le gars avait donné le tip après que le douanier lui avait dit, c'est correct, tu peux y aller. Ce qui n'était pas considéré comme un pot de vin au sens très, très technique, faut croire. Mais l'image du Canada à l'étranger, moi, je vois pas ce que ça fait dans le communiqué de presse qui annonce des accusations. Finalement, j'aimerais vous parler de la peine, parce que ça c'est l'enjeu numéro un. Hein. Comprendre les accusations, c'est pour avoir une peine. Il y a deux problèmes, à mon avis, en tout cas, deux éléments intéressants au niveau de la peine. Le premier, c'est l'amende. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça prend une amende, on peut pas construire une prison. Élément très intéressant, on dit que l'amende qui va être possible, c'est une amende dont le montant est à fixer par le tribunal. Donc, quand je dis à mes étudiants que le principe de l'égalité, c'est important, et qu'on peut pas avoir de peine sans loi, et je leur dis que la peine doit être prévue expressément, ben c'est pas vrai. Parce qu'à 735A, on laisse à l'entière discrétion du juge la peine. Il n'y a pas de peine maximale. Et pourquoi c'est comme ça? Ben écoutez, il faut que la peine soit nécessairement en relation avec les profits qui ont été faits suite à l'acte criminel. Et là, écoutez, sky's the limit, là. Auriez-vous aimé voir dans le code criminel peine maximale d'un milliard? Parce qu'on peut imaginer que pour certaines compagnies, l'acte criminel a provoqué des profits de 200, 300, 400, 500 millions. Donc, si la compagnie a fait 300 millions de profits et que la peine maximale, c'est 1 million, ben, vous savez ce qui va arriver demain, là. La compagnie va reposer le même geste et elle va probablement même déduire le 1 million de ses impôts à titre de dépenses d'exploitation. Donc, il ne pouvait pas y avoir de montant maximal. Mais le problème, c'est aussi un peu en droit pénal, et ça, je reviens sur ce que la professeure Menkis disait tout à l'heure, c'est un peu aussi l'abus de peine minimale. Les gens qui lisent les décisions de la Cour suprême, vous avez sûrement vu récemment l'arrêt de la souveraine contre l'AMF. Moi, la souveraine contre l'AMF, je le vois comme un genre de péréquation parce que c'était une compagnie albertaine qui était poursuivie au Québec. Et l'AMF avait pris 56 chefs d'accusation à une peine minimale de 10 000 $ chaque. Donc, c'était 560 000 $ qui est passé des sables bitumineux finalement à nos fermes laitières. Et ce qu'on reprochait à la souveraine, qui était quand même assez grave, c'était d'avoir assuré 56 véhicules récréatifs qui appartenait à un Ontarien, et qui, pendant une courte période, se sont retrouvés au Québec. Donc, l'AMF a dit, vous avez assuré des biens qui étaient au Québec sans détenir un permis de l'AMF à titre d'assureur. On s'entend tous que c'est une infraction qui est totalement déshonorable et qui mérite une peine sévère. Dans le cas de l'AMF, ça a été 560 000 $. Et quand on parle de discrétion de la poursuite, là, quand vous savez que l'AMF bénéficie d'une certaine façon du montant des amendes qu'elle va chercher, il y a peut-être un conflit d'intérêts là-dedans. L'autre élément qui est intéressant, à mon avis, c'est la probation. Parce qu'il y a une amende, mais il y a aussi une possibilité de probation. Et j'attire votre attention sur G. Je sais que c'est assez long, là. Mais G, d'observer toute autre condition raisonnable que le juge estime indiquée pour empêcher l'organisation de commettre d'autres infractions. Moi, je rêve au jour où une compagnie qui aura fraudé Revenu Québec ou Revenu Canada se fera imposer comme condition de probation d'avoir un employé de Revenu Québec et de Revenu Canada dans ses bureaux pendant un an, à ses frais, qui autorisera toute dépense. Non, mais imaginez ça, là. Simard Baudry, fraude Revenu Québec. Revenu Québec, lui, sais-tu quoi? On va t'envoyer un contrôleur, un vérificateur, qui va élire résidence dans le bureau de ton trésorier et qui va vérifier chaque facture une par une. Imaginez le bonheur que ce serait, là. Et ça coûterait rien à l'État. Parce qu'évidemment, c'est Simard Baudry qui aurait la charge de payer cet employé. Il serait probablement pas invité au party de Noël, on s'entend. Mais ce serait, à mon avis, une mesure de dissuasion immense, là. Qui va avoir quelqu'un de Revenu Québec un an de temps dans sa business, là? OK? Le juge pourrait théoriquement permettre ça. En conclusion, les problèmes, ben écoutez, il y en a une multitude, j'en soulève quelques-uns. Un premier qui se pose dans le cas de SNC-Lavalin, très rapidement, c'est que si vous êtes en droit pénal, mettons, une infraction de responsabilité stricte, la compagnie va pouvoir faire une preuve de diligence raisonnable, okay, pour être exonérée. Si vous êtes en droit criminel, par exemple, pour une fraude, et que vous avez une personne dans la compagnie, nommons-le par hasard, là, puis c'est vraiment totalement fictif, M. Soriol, et imaginons qu'il vend des compteurs d'eau. Imaginons, ben peut-être que c'est pas tout le monde dans la compagnie qui mérite d'être puni. Mais pourtant, l'idée de bonne gouvernance, ça sera pas un moyen de défense. On peut invoquer diligence raisonnable contre une infraction de responsabilité stricte, mais on ne pourra pas contre une infraction criminelle, ce qui est un peu paradoxal. Deuxième problème, ben, évidemment, une absence de peine en cas de faillite, hein. Ça, écoutez, c'est un problème majeur. Vous utilisez des compagnies coquées, vous faites crime par-dessus crime par-dessus crime, et il n'y aura absolument aucune responsabilité. Parce que dès qu'il y a des accusations de déposer, vous faites faillite. Ça, c'est un problème quand même majeur. Responsabilité du fait d'autrui versus the cost of doing business. Vous savez qu'en droit criminel canadien, nous sommes allergiques à la responsabilité du fait d'autrui. Pourtant, c'est un peu ça, la responsabilité des corporations, là. Ce sont leurs employés qui commettent des crimes et c'est la compagnie qui paie. Est-ce que c'est justifié avec cette idée de the cost of doing business, là? Est-ce que c'est une dépense ou un risque d'exploitation, le crime? Je ne sais pas. Et le droit civil et la common law dans tout cela? Ben, peut-être, et je vous laisserai là-dessus, et ça revient un peu avec le thème de la soirée, peut-être qu'à vouloir utiliser toujours le droit criminel, on se trompe. Le droit criminel, c'est une des solutions. Je dis à mes étudiants que c'est souvent la plus mauvaise, la plus grossière et la plus mal adaptée, mais c'est une solution qui est très vendeuse. Et peut-être qu'on n'a pas besoin du droit criminel pour les corporations, parce que le droit civil, le droit administratif, le droit pénal au sens de pénalité, là, fait déjà l'affaire. Est-ce qu'on a en plus le besoin de s'en aller en droit criminel? Les 10 ou 15 dernières années démontrent que c'est pas absolument nécessaire. Et je pense qu'avec MMA, avec SNC-Lavalin, on aura peut-être une bonne réponse dans ce contexte. Parce que si, surtout MMA, ça finit dans un fiasco total et complet, bon, on aura peut-être la réponse une fois pour toutes. Et on trouvera que la façon de punir les compagnies, la façon de les dissuader, c'est par le biais du droit civil, c'est par le biais du droit administratif, c'est par le biais du droit réglementaire. Pensons juste, par exemple, à la question des appels d'offres. Vous savez, pour une compagnie, ce qui fait le plus mal, souvent, c'est pas tellement la condamnation. C'est le fait qu'en raison de la condamnation, la compagnie est inadmissible à participer à un appel d'offres pour tant d'années. Et ça, c'est souvent la mort financière de la compagnie, non? Donc, on voit que cette possibilité de contrôle au niveau administratif vient souvent régler tous les problèmes. J'avais dit au professeur Bachand que je laisserais peut-être, je dirais peut-être juste un petit mot sur le juge Delisle. Il est un peu tard, là, mais très, très rapidement. J'ai des avocats de la défense ici. J'ai écouté l'enquête. Je présume que vous l'avez tous écouté, vous en avez tous entendu parler. Ce qui est extraordinaire là-dedans, là, c'est que le juge Delisle, sans le dire, vient, dans le fond, admettre qu'ils ont juste pris la mauvaise stratégie au premier procès, là. C'est ça, dans le fond, son argument, là. C'est-à-dire, écoutez, bon, il y a évidemment l'affaire pour faire pleurer tout le monde, où il dit « j'ai décidé de pas témoigner parce que mes petits-enfants se faisaient bousculer dans la cour d'école ». Écoutez, peut-être que je suis pas assez sensible avec mes enfants, là, mais moi, si mes propres enfants, pas mes petits-enfants, si mes propres enfants font rire d'eux dans la cour d'école, je vais probablement quand même éviter une condamnation pour meurtre au premier degré, là. En tout cas, j'espère sincèrement que ça n'a pas été ça le facteur décisif. Parce que c'est ce qu'il a présenté en enquête comme facteur décisif pour ne pas témoigner, là. C'est peut-être un grand sensible dont on ignorait cette qualité, là, mais en tout cas, sur le banc, il ne donnait pas cette impression-là, manifestement. Donc, ça c'est la version publique. La version officieuse, à mon avis, c'est que ce qu'il a dit, dans le fond, dans l'enquête, c'est qu'il a commis l'infraction privée à 241, aide à suicide, et qu'il devait, pendant son témoignage, venir admettre que le pistolet prohibé, c'était le sien. Et vous savez que ça, il y a une peine minimale pour ça. Donc, s'il témoignait, il ramassait manifestement aide à suicide, et il ramassait manifestement la peine minimale pour possession d'armes prohibées. Donc, il regardait quoi? Peut-être un 3, 4, 5 ans de prison. S'il ne témoigne pas et il compte pas son histoire, ben là, de le relier à possession d'armes, ça devenait beaucoup plus difficile. Et en plus, il s'en tirait sans aide à suicide, parce qu'il n'y avait pas de preuve de son aide à suicide. Donc, il y avait une chance pour un acquittement complet. Il a pris ce pari, manifestement, il l'a perdu. Et écoutez, juste pour faire un parallèle avec mes étudiants, on a un programme à Sherbrooke où les étudiants, bon, font des choses reliées au droit criminel. On l'a dit, pour vous montrer ce que c'est la réalité, on va vous envoyer à Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, on les envoie à Sainte-Anne-des-Plaines, et en dedans de 5 minutes, ils ont vu Rocco Magnotta et le juge Delisle qui passe la mop. Okay? Donc, ils reviennent, ils sont éberlués. Moi, je leur ai dit, écoutez, quand on va au zoo, on sort les plus beaux animaux, là, donc je comprends qu'ils ont voulu donner un spectacle devant les jeunes. Mais c'est un peu ça, là. C'est un mauvais pari. Il n'y a pas une tonne d'éléments nouveaux, sauf peut-être quelques petits éléments de balistique. Mais son élément nouveau, c'est de dire, j'ai fait une erreur dans mon procès. Et pourquoi avoir attendu 5 ans pour le dire? Peut-être que l'arrêt Carter l'a poussé un peu, hein, parce que manifestement, maintenant, il y a peut-être un peu plus d'arguments sur l'aide au suicide. Et de toute façon, même s'il était trouvé coupable d'aide au suicide, le temps qu'il a passé en détention ferait probablement ça qu'il ne retournerait pas. Écoutez, je laisse ça à votre réflexion. Il y a sûrement beaucoup de choses à dire. Entre-temps, on va voir notre excellent ministre McKay décider de cette question délicate, en espérant qu'il fera preuve du doigté usuel. Merci.
Mais, merci beaucoup, Simon. C'était excellent et très stimulant. Puis pour moi, c'est un des grands enjeux du dossier de Lille, parce que là, c'est une des questions qui se pose, c'est qui a le dernier mot, là, le politique ou le judiciaire, parce qu'on est... L'arrêt de la Cour d'appel a été rendu, je me souviens bien, en 2013. Il a cogné à la porte de la Cour suprême il y a quelques mois, qui lui a dit non. C'est pas un dossier comme les autres dossiers de condamnation injustifiée qui ont fait la manchette au cours des dernières années, où là, c'était 15-20 ans après le fait, on découvrait une nouvelle preuve d'ADN, quelque chose qui justifiait vraiment qu'on roule ce dossier-là, là, comme Simon Roy nous le disait, il est essentiellement en train d'essayer de get a second kick at the can, comme on dit en anglais. Puis en plus, ça arrive dans une année électorale aussi, où là, il y a plein d'autres choses qui se passent. Et, en tout cas, ça sera très intéressant à suivre. Marie, est-ce que tu veux brièvement commenter ça sur l'exposé de Simon ou sur la question.
Oui, très intéressant comme exposé, merci. J'aurais une question au niveau des peines. Vous avez exposé qu'il y a les amendes qui sont possibles, il y a aussi probation. Qu'est-ce qu'il y en est de la restitution ou du dédommagement en matière pénale, qui est une disposition qui existe et qui vraisemblablement pourrait être une autre option qui irait directement aux victimes de l'affaire, au lieu d'avoir une amende qui est qui va dans les poches du gouvernement?
Ça, c'est un enjeu important. Vous savez, en matière de fraude, on a maintenant 380.1 qui prévoit l'obligation pour le juge de demander à la victime si elle veut faire une demande de dédommagement, si elle veut aussi, dans le fond, faire une déclaration. Le problème que je vois pour les fraudes immenses, là, Enron, Norbourg, SNC-Lavalin, c'est que, dans le fond, on demande au juge, souvent de la Cour du Québec, qui n'a pas fait de droit civil depuis 25 ans, qui connaît probablement juste le CCBC, de venir arbitrer une preuve de dédommagement très complexe, avec peut-être des intérêts perdus, avec une multitude de créanciers. Imaginez juste Earl Jones, par exemple. Est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'un juge de la Cour du Québec, dans le cadre d'un procès pénal, vienne faire le partage de ce qu'on a trouvé à l'encan pour Earl Jones? Et plus que ça, si le juge fait un tel partage et que la victime n'est pas contente, est-ce qu'elle perd un appel? Elle n'est pas partie au procès. Elle n'a pas de procureur. À mon avis, elle n'a même pas le droit de se faire représenter à ce moment-là, parce que c'est le procureur de la couronne contre l'accusé. Donc, est-ce que la partie pourrait dire dans le procès criminel, ben moi, je veux faire une demande de dédommagement en vertu du code criminel et je veux avoir un procureur qui va venir faire ça. Le seul cas où je verrais un intérêt à le faire, c'est pour déjouer les règles de la prescription. Parce que le dédommagement est prévu dans le code criminel. Et la question qui se pose, c'est est-ce que les règles de prescription de droit civil s'appliquent au dédommagement à vertu du code criminel? Moi, être une victime et avoir un recours qui est prescrit en droit civil, là, j'essaierais de me faire dédommager pour le biais du code criminel, parce que manifestement, je ne pense pas que les règles de prescription s'appliquent. En tout cas, ça serait bon d'essayer. Personnellement, là, dans des cas relativement simples, je pense que oui, il peut y avoir des dédommagements en droit criminel. Pour des cas moindrement compliqués, on est loin du système français. Vous savez, dans le système français, la victime devient partie à l'action civile qui se déroule en même temps. Elle bénéficie de la preuve de la couronne, tout ça, mais elle peut être représentée. Elle a un droit d'appel si elle perd. Je pense que le système britannique peut pas, le système canadien qui est inspiré du système britannique, peut pas accommoder la victime à ce point.
C'est intéressant parce qu'aux États-Unis, justement, ils ont pris cette voie-ci et la restitution, même en matière de pornographie, par exemple, juvénile, a pris une ampleur telle que les victimes sont même représentées dans l'instance pénale et peuvent justement déclencher. Et donc, on est dans un système de common law britannique, ce qui aurait des
Ça demanderait des aménagements immenses au niveau de la procédure. Est-ce que c'est impossible? Ben, peut-être pas, mais il faudrait oublier le droit criminel comme on le perçoit présentement. Parce que là, vous comprenez que la décision, par exemple, pour la couronne de régler sur une accusation moins importante ou de laisser tomber le dossier, là, il y a la victime qui pousse en arrière pour avoir son dédommagement. Donc, c'est introduire un autre acteur dans le débat. Et quand on parlait tantôt des peines minimales et de la discrétion du procureur, bien, si la victime lui pousse dans le dos, je ne pense pas qu'on soit dans le bon chemin. Il
faut aller évoquer la possibilité d'une civilisation du système pénal britannique.
On est encore sauvage.
Je voulais seulement indiquer que peut-être les gens auront un certain intérêt que Jim Lockyer, Advocate for the Wrongly Convicted à Toronto, qui représente actuellement le juge de Lille, est anciennement chargé de cours ici à la faculté, très brièvement, mais en droit de fiducie, non pas en droit pénal.
Ah. Voilà.
On pourrait dire que s'il comprend le droit des fiducies, il comprend tout, y compris le droit pénal.
We have a few minutes for questions and comments from members of the audience, so please feel free to jump in.
Pourquoi pensez-vous qu'il y a un soudain intérêt des médias sur ces dossiers-là? Dans le temps, il n'y en avait pas vraiment. Est-ce que c'est vraiment c'est à ère de law and order qui revient et qui dirige ce genre de situation? Est-ce que c'est la discussion que la politique en fait? Et...
Honnêtement, je ne sais pas. Je me demande si toute la discussion actuelle sur l'austérité ne va pas un peu ramener les choses. C'est clair que le fait que le gouvernement conservateur mette cette question au premier plan, ça a intéressé la population et les médias ont pris la balle au bon. J'ai beaucoup de difficultés à m'expliquer ce qui arrive présentement. Je pense juste, par exemple, au projet de loi conservateur qui, d'après ce que je comprends, n'est pas encore disponible, mais pour ramener la peine minimale ou la période, en fait, d'inadmissibilité à la libération conditionnelle à 35 ans pour un meurtre au premier degré. Écoutez, ça a sorti dans les journaux, ça a été important. J'ai reçu peut-être 8 appels pour commenter. Moi, je ne vois pas l'intérêt de cette mesure. D'un, parce qu'elle ne vise pas les meurtriers multiples, qui, eux, sont déjà couverts, comme on le voit avec Justin Bourque, par une possibilité de cumuler les peines d'inadmissibilité. Donc, pour eux, ça ne s'applique pas vraiment. Et de toute façon, comme je vous mentionnais tout à l'heure, si cette mesure entre en vigueur, elle n'a pas d'application avant 25 ans, là, parce qu'on ne peut pas l'appliquer de façon rétroactive. Donc, le gouvernement conservateur nous dit, voilà, dans 25 ans, on va avoir un problème, et on va le régler tout de suite. Et là, ça crée un débat. Je ne sais pas, je suis un peu, je vous dirais, peut-être déçu de l'attitude des médias ou même du gouvernement conservateur de nous faire croire à ces problèmes qu'ils ne sont peut-être pas. Mais d'un autre côté, c'est peut-être moi qui ai tort, parce que les gens veulent entendre parler de ça. Et d'après ce qu'on voit aux élections, sont d'accord avec ces mesures. Donc, peut-être que je suis juste dans le mauvais pays, je ne comprends pas ce que les autres veulent. Mais j'ai beaucoup de difficultés à m'expliquer comment on a autant d'intérêt pour la protection du public et pour les crimes, alors que toutes les statistiques démontrent que ce n'est pas un enjeu important présentement. Je ne sais pas si c'est une fabrication des médias ou une vision différente de la population qui amène ça. Mais moi, personnellement, là, je vais retourner à l'hôtel ce soir, puis j'ai pas si peur que ça de me faire agresser. Là. Puis si je me fais agresser, ça me procure pas nécessairement plus de bonheur que de savoir que la personne qui m'a tué va passer 10 ans de plus en prison dans 25 ans. Là. Donc, je sais pas, j'aurais de la difficulté. Je peux peut-être vous retourner la question. Pourquoi vous pensez que c'est si populaire et ça prend une telle place dans les médias?
Souvent, plus on en parle, plus on fait peur aux gens, plus c'est... on parle de... J'imagine qu'il y a eu certains cas où la poursuite a décidé d'entamer des procédures. Alors là, c'est plus à la lumière. Alors, c'est un genre d'enclenchement.
Moi, je suis en train de me dire que c'est peut-être vrai. Là. Peut-être que les Canadiens veulent plus de sécurité. Peut-être que les Canadiens ont peur. Et peut-être que les conservateurs ont compris quelque chose que nous, les professeurs d'université, on n'avait pas compris depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on a besoin de plus de sécurité dans le pays. C'est possible qu'on se soit juste trompé et que les conservateurs aient raison au bout de la ligne. Là. Peut-être.
On revient à la question de l'opinion publique versus l'opinion de l'expert, parce que une des tendances, c'est qu'on note une perte d'influence de la science et de l'expertise dans l'élaboration des politiques publiques, puis ça se manifeste de manière très, très claire dans ces... dans le domaine de la loi et l'ordre, pour reprendre cette expression que j'aime moins, mais elle est consacrée maintenant. Merci infiniment à Simon Roy, qui est venu de Cherbourg pour nous parler. Ça a été excellent et très stimulant. Merci beaucoup. Attendez un instant, s'il vous plaît. J'ai besoin de 30 secondes parce que c'est la fin de notre cycle de formation continue de cette année, puis je voulais surtout pas rater l'occasion de remercier, de féliciter Véronique Bélanger, ma collègue et amie, qui fait un travail magnifique dans le cadre de ce cycle-là. Et je voudrais aussi remercier nos étudiants qui nous ont aidés ce soir et tout au long de l'année, ainsi que nos spécialistes en technologie de l'information qui sont toujours fidèles au rendez-vous et qui sont toujours aussi compétents. Bien, on se revoit donc en octobre. Les détails de notre prochain cycle de formation continue seront rendus publics cet été. Alors, merci encore de votre fidélité et à bientôt.